Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette troisième conférence sur l'histoire, la culture et le patrimoine imprimé organisée par la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire de l'UQAR. Alors mon nom est Julien Goyette, je suis professeur d'histoire au département des lettres et humanités et ça me fait grand plaisir d'agir en tant qu'animateur de cette soirée. Ce soir, justement, on a le privilège de recevoir le titulaire de la chaire en histoire littéraire, donc le fondateur du Centre Joseph Charles Taché dans lequel on se trouve en ce moment et l'initiateur du cycle de conférences, du présent cycle de conférences, donc le professeur Claude Lacharité. Il en va de la carrière de Claude comme de l'actualité, c'est-à-dire qu'il faut constamment se mettre à jour afin de suivre l'évolution rapide de ses multiples ramifications. Alors, titulaire d'un doctorat en littérature française de la Renaissance de l'Université Paris IV Sorbonne, professeur au département de lettres depuis 2002. Claude Lacharité a largement participé aux études rabelaisiennes, notamment avec la publication en 2003 de La rhétorique épistolaire de Rabelais, donc aux éditions Nota Bene. Il a par ailleurs publié un nombre impressionnant d'articles savants et prononcé de très nombreuses communications et conférences publiques sur une étonnante variété de thèmes, des femmes écrivains de la Renaissance à Arthur Bui, en passant par la rhétorique des genres, poétique des genres, pardon, au XVIe siècle, et notre bonne vieille ermite locale, Toussaint Cartier. Je signale également la publication des mémoires de Philippe Aubert de Gaspé en collaboration avec Marc-André Bernier en 2007 aux éditions Bibliothèque québécoise. Alors, l'ampleur et la qualité de la production de Claude ont été récompensées par les prix d'excellence en recherche du réseau de l'Université du Québec en 2006 et tout récemment, il a également remporté un prix dans le cadre du concours de vulgarisation de la recherche organisé par l'ACFAS pour un texte qui n'est pas sans lien avec son propos de ce soir, soit « Le bas du fleuve, berceau de la littérature québécoise ». Alors, le titre de la conférence à laquelle il nous convie ce soir est « Joseph Charles Taché et l'Institut littéraire de Rimouski ». Alors, l'intitulé est prometteur, car si grâce à l'existence du centre, on commence à mieux connaître cet intellectuel important québécois qu'a été Joseph Charles Taché, on ne sait rien, ou à peu près rien, de cet institut littéraire dont les origines et l'existence demeurent pour le moins nébuleuses. Mais le résumé de la conférence nous promettait de répondre, peut-être pas à toutes, mais au moins à certaines de nos questions qui étaient restées jusqu'ici sans réponse. Alors, la présentation de Claude devrait durer environ 75 minutes. Par la suite, il lui fera plaisir, j'en suis sûr, de répondre aux questions de l'auditoire, mais je lui cède la parole immédiatement. Bien, merci beaucoup, Julien, pour cette très flatteuse présentation. L'usage veut que l'orateur commence par dire qu'il n'est pas à la hauteur de tous les éloges qu'on lui a décernés copieusement dans la présentation. Je vais m'abstenir, si vous voulez bien, de le faire ce soir, non pas parce que j'ai une haute estime de moi-même, mais je voudrais plutôt mettre l'accent sur des projets que Julien et moi avons en commun, entre autres la première édition des œuvres littéraires complètes de Joseph Charles Taché, qui devrait paraître dans la Bibliothèque québécoise, donc dans la même collection que les mémoires de Philippe Aubert de Gaspé. Et nous avons, Julien et moi, un autre projet très important. C'est une journée d'études qui sera consacrée à Joseph Charles Taché, qui s'intitule pour l'instant Joseph Charles Taché polygraphe, parce qu'on verra dans quelques minutes que Taché est un personnage un peu touche-à-tout, qu'il a publié dans tous les genres, qui s'est intéressé à tout, à tel point que l'abbé Calgrin va l'appeler le plus érudit, le plus universellement érudit de tous les Canadiens, avec évidemment le sens que Canadien a à l'époque, c'est-à-dire grosso modo québécois. Et donc, cette journée d'études aura lieu ici même à Rimouski, sans doute vers la fin juin 2010. Alors, ce sera certainement un événement très important dans l'histoire du Québec moderne. Alors, sans plus tarder, je voudrais quand même vous remercier d'être aussi nombreux ce soir. On voit là que ce sont que des gens de qualité qui ont décidé de se déplacer par un beau vendredi soir. Je voudrais aussi simplement souligner que cet événement-là a lieu grâce à une collaboration avec le Salon du livre de Rimouski. Il s'agit d'une des activités hors les murs, du Salon du Livre de Rimouski. Je tiens beaucoup à ce type de partenariat. J'espère que l'année prochaine, on pourra réitérer la chose et que, à la différence de cette année, notre activité pourra paraître dans le programme, puisqu'il y a eu un petit problème technique qui a fait que la conférence, malheureusement, n'a pas pu être annoncée dans le programme du Salon, même s'il s'agit d'une activité co-organisée par le Salon du Livre. Et puis, dernière chose, évidemment, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous dire à quel point je suis heureux de pouvoir parler de Joseph Charles Taché dans ce centre qui s'appelle précisément Joseph Charles Taché. On verra que la raison pour laquelle j'ai donné ce nom au centre de recherche, c'est que tout simplement Taché a fait un don de 500 volumes de sa bibliothèque personnelle à l'Institut littéraire de Rimouski en 1855. Et il s'agit là en réalité du noyau de la bibliothèque du séminaire de Rimouski. Donc les livres qui sont autour de vous viennent de ce don initial de Taché de 500 volumes, même si malheureusement, dans l'inventaire en cours, on n'a pas réussi à retrouver de traces clair de ce don-là, c'est-à-dire on n'a pas retrouvé d'ex-dono, on n'a pas trouvé de mention manuscrite de Taché dans un des volumes, mais on sait en revanche par d'autres sources que ces 500 volumes donnés d'abord à l'Institut littéraire de Rimouski ont fini par se retrouver dans la bibliothèque du Collège de Rimouski, qui deviendra ensuite le séminaire de Rimouski. Mais je reviendrai sur tout ça dans quelques minutes. Alors, pour l'instant, ce que je voudrais, c'est tout de suite passer donc à l'essentiel de mon propos de ce soir. Et je veux d'abord vous montrer rapidement que nous avons un programme chargé, et donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce plan que vous avez par ailleurs entre les mains et sous les yeux. Donc vous voyez quand même qu'il y a en tout 12 points à couvrir, donc je passe tout au premier, l'Institut littéraire de Rimouski. Ce qui est très important à propos de cet Institut littéraire de Rimouski, c'est de bien avoir à l'esprit le contexte dans lequel il a été créé. Je rappelle que l'Institut littéraire de Rimouski a été créé en 1855. Or, dans le Québec des années 1840 et 1850, on assiste à la création de très nombreux instituts littéraires, instituts canadiens, associations littéraires diverses. Il y a un historien très important qui s'est intéressé à cette question. En fait, c'est à peu près le seul historien à ce jour qui se soit intéressé à ce phénomène très particulier des associations et des instituts littéraires dans le Québec des années 1840 et 1850. Et cet historien, c'est Yvan Lamonde. Or, c'est à peu près le seul qui ait dressé une sorte de portrait d'ensemble de ces associations diverses dans le Québec du 19e siècle. Et il a identifié plus de 27 instituts canadiens et 25 associations littéraires diverses. Donc, en gros, une cinquantaine. Et sans doute que ce portrait-là n'est pas complet, puisque l'Institut littéraire de Rimouski, dont je vais vous parler ce soir, n'apparaît pas dans le relevé, dans le tableau que nous propose Yvan Lamonde. C'est donc dire que l'Institut littéraire de Rimouski n'est pas du tout un cas exceptionnel. Au contraire, ça s'inscrit dans une sorte de mode. Alors, pourquoi y a-t-il autant d'instituts littéraires qui sont créés précisément à cette époque au Québec? Alors, les historiens ont avancé différentes hypothèses. Une des plus, je dirais, convaincantes consiste à dire que les Québécois, au lendemain de la répression des révoltes des patriotes, sont un petit peu, sont un peu dans une situation qui ressemble à une impasse sur le plan politique. Hein, parce que d'une part, non seulement le projet des Patriotes n'a pas pu aboutir, mais de plus, le gouvernement britannique a décidé d'imposer aux Québécois l'union des deux Canada à partir de 1840. Si bien que les Québécois se retrouvent presque déjà minoritaires dans un grand ensemble politique où les Hauts-Canadiens, en quelque sorte, sont capables à eux seuls de prendre toutes les décisions puisqu'ils sont majoritaires dans cette nouvelle ensemble politique qui va perdurer jusqu'à la Confédération en 1867. Si bien que beaucoup de Québécois qui avaient tout investi dans le projet social porté par les Patriotes vont se détourner de la politique et vont essayer d'inventer de nouveaux lieux de sociabilité, de nouveaux endroits pour discuter, échanger, en dehors de l'Assemblée législative. Et ce sera, entre autres, ces fameux instituts et fameuses associations littéraires de toutes sortes qui vont pulluler véritablement dans les années 1840-1850. Et une autre raison qui explique la grande popularité de ces instituts, c'est le fait que le gouvernement du Bas-Canada, enfin, le gouvernement du Canada uni, donc du Bas-Canada et du Haut-Canada, va promouvoir la création d'associations comme l'Institut littéraire de Rimouski en donnant une subvention annuelle de 50 livres sterling. Alors, c'est beaucoup d'argent à l'époque et du coup, évidemment, dans différentes communautés en Ontario et au Québec, les gens vont se réunir et vont mettre sur pied un institut ou une bibliothèque pour pouvoir bénéficier de la subvention de 50 livres sterling. Sauf que, évidemment, ce programme-là va être très rapidement aboli. Et dans les... Je n'ai plus la date exacte, mais je crois que c'est dès le début des années 1860, si bien qu'il y a beaucoup d'instituts et beaucoup d'associations littéraires qui, du même coup, vont disparaître à partir du moment où les subventions seront abolies. Alors, est-ce que c'est le cas de l'Institut littéraire de Rimouski? Ben, je ne peux malheureusement pas répondre à la question parce que les sources sont trop rares. On a du mal à savoir exactement à quel moment l'Institut a disparu. Je vais évoquer un certain nombre d'hypothèses dans un instant, mais il est évident que, sans doute, dès les années 1870, il n'existe plus d'institut littéraire à Rimouski à proprement parler. Donc, on peut imaginer que, comme la plupart de ces instituts, l'institut littéraire de Rimouski a probablement duré 10 ou 15 ans environ, en tout. Est-ce que c'est la toute première fois que, dans les années 1840 et 1850, on met sur pied de telles associations ou de tels instituts? La réponse est non. En fait, chez les anglophones, il existait déjà au Québec, bien avant, des associations, des regroupements de ce genre. Par exemple, il existait à Québec, dès le tout début du 19e siècle, la Québec Literary and Historical Society, auquel participaient évidemment certains francophones, entre autres Philippe Aubert de Gaspé père, un ami de Philippe Aubert de Gaspé qui s'appelait Georges Barthélémy Faribault, qui était d'ailleurs bibliothécaire de la société, mais il reste que cette société-là avait pour seule langue de travail et de communication l'anglais. Donc évidemment, il y avait des francophones, mais tout se faisait uniquement en anglais. Et c'est un phénomène qui n'est pas propre au Québec, même s'il y a eu beaucoup d'instituts créés dans les années 1840-1850, c'est un phénomène plus largement occidental. En Angleterre et en Écosse, il y a eu, dès la fin du 18e siècle, ce qu'on a appelé des « Mechanics Institutes ». Alors, pourquoi mechanics? C'est pas parce que c'était des mécaniciens, mais c'était plutôt des regroupements de travailleurs manuels qui se réunissaient périodiquement pour mettre en commun des lectures, des livres, mais aussi pour assister ensemble à des conférences afin de parfaire leur éducation. Comme c'était des travailleurs manuels, la plupart d'entre eux n'avaient pas fait de longues études, et ces conférences du soir leur permettaient en quelque sorte de compléter l'éducation qu'ils n'avaient pas eue, ou n'avaient pas reçue complètement. Il y a eu aussi en Europe occidentale, toujours à la même époque, un certain nombre de cabinets de lecture qui se sont mis en place un peu partout. Donc, les instituts littéraires au Québec, ce n'est que l'adaptation locale d'une réalité qui existe déjà depuis 40, 30 ans à l'échelle de tout l'Occident, finalement. L'institut littéraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne fait pas exception à la règle, l'Institut littéraire de Rimouski, puisqu'il aura une existence assez éphémère. On ne sait pas très bien à quel moment est-ce que cet institut va disparaître, mais ce qui est certain, c'est que dans mon propos de la prochaine heure, je vais considérer, disons, une période assez large. Je vais parler de l'Institut littéraire de Rimouski jusqu'à la publication d'un ouvrage très important qui s'appelle « La chronique de Rimouski », qui a été écrit par un certain Charles Gay et qui a été publié en 1873-1874. À mon sens, il s'agit là de la dernière retombée de l'Institut littéraire de Rimouski, même si au moment de la publication en 1973-1974, il est très clair que l'Institut n'existe sans doute déjà plus depuis un certain temps, n'existe plus en tout cas de façon formelle et officielle, sous forme d'organisation qui se réunit périodiquement pour entendre des conférenciers, etc. Je pense que l'Institut a existé sans doute jusqu'en 1867 parce qu'on trouve dans un manuscrit inédit, un roman d'un abbé, l'abbé Louis-Édouard Bois, une mention qui fait clairement allusion à l'Institut littéraire de Rimouski. Et ce manuscrit, même s'il n'a jamais été publié, a probablement été écrit vers 1867 pour une raison simple, c'est que c'est un roman qui parle de la vie de l'ermite. Et à un moment précis dans le manuscrit, le narrateur nous dit que l'ermite est mort il y a bientôt 100 ans. comme vous savez, l'ermite Toussaint-Cartier est mort en 1767, ce qui nous permet de situer la rédaction autour de 1867. Ça ne veut pas dire nécessairement 1867, mais sans doute quelques années ou quelques mois avant 1867. Or, dans ce manuscrit inédit, on lit la chose suivante. Rimouski ne comptait pas à cette époque, c'est-à-dire au 18e siècle, à l'époque où vivait l'ermite. Donc, Rimouski ne comptait pas à cette époque ni homme de lettres, ni gens de profession, pas d'organisation municipale, ni même paroissiale. Rimouski n'était alors que la terre de l'Orignal, hein, c'est le sens du toponyme Rimouski en Micmac. On n'y voyait ni le collège qui fait son orgueil, ni son institut que préconise au loin un aimable enfant du sol. Donc, l'institut en question, ce serait l'institut littéraire de Rimouski, et l'aimable enfant du sol, ben, ce serait Joseph-Charles Taché, parce qu'il est né à Kamouraska, comme vous le savez, et il était à l'époque au loin, puisqu'en 67, il est sous-ministre à l'agriculture à Ottawa. Donc, quand même, très très loin de Rimouski. Bien, alors, je voulais quand même insister sur ce contexte qui est quand même très important pour dire que l'institut littéraire sans doute le plus connu, c'est l'Institut canadien de Montréal. C'est un institut qui est extrêmement célèbre parce qu'il a eu très rapidement des démêlés importants avec l'Église catholique, avec entre autres l'évêque de Montréal, Monseigneur Ignace Bourget. Et évidemment, ces démêlés vont donner une sorte de publicité extraordinaire à cet Institut canadien de Montréal. C'est un institut qui est très marqué idéologiquement, qui défend des valeurs essentiellement libérales, laïques, anticléricales. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas imaginer que tous les instituts canadiens du Québec de l'époque et tous les instituts littéraires sont sur le modèle de l'Institut canadien de Montréal. En réalité, l'Institut canadien de Montréal est un peu une exception. La plupart des autres instituts seront beaucoup moins marqués idéologiquement. La plupart des autres instituts vont prendre un peu la couleur de leurs membres, et très souvent, ces membres-là sont issus de différents horizons. Ils ne sont pas tous nécessairement des libéraux, ne sont pas tous non plus des anticléricaux convaincus. Le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est l'Institut canadien de Québec, qui est peut-être le plus grand institut après celui de Montréal. Or, l'Institut canadien de Québec, qui a été créé après coup, en 1847, alors que l'Institut canadien de Montréal a été créé en 1844, ben, l'Institut canadien de Québec va faire en sorte de ne pas répéter ce que l'on estime être les erreurs de l'Institut canadien de Montréal. C'est-à-dire qu'on va faire bien attention de ne pas heurter la sensibilité de l'Église catholique. On va faire bien attention de ne pas faire en sorte que les activités de l'Institut canadien de Québec soient perçues comme une attaque portée directement contre l'évêque de Québec, entre autres. Et ça, je crois que c'est vrai, non seulement pour l'Institut canadien de Québec, mais pour la plupart des autres instituts. Si bien qu'il ne faudrait pas trop avoir à l'esprit l'Institut canadien de Montréal en pensant à l'Institut littéraire de Rimouski. D'autant plus que on sait que l'Église catholique, très rapidement, a voulu mettre en place une sorte de contre-offensive. L'Église catholique, malgré tous ses défauts, a tout de suite perçu la menace que représentaient ces instituts canadiens de Montréal et a voulu, en quelque sorte, offrir une alternative aux instituts et donc va créer une série d'instituts catholiques pour essayer d'endiguer l'influence des instituts canadiens. Alors, ça va donner, par exemple, en 1852, la création de l'Institut national, qui va être placé sous le patronage de Monseigneur Bourget. Ça va également donner lieu, en 1854, à la création de l'Union catholique, là encore fondée dans le même esprit, c'est-à-dire dans le but avoué d'offrir une alternative aux instituts canadiens qui propagent des idées libérales, laïques et anticléricales. Or, notre institut, lui, se situe très clairement dans cette mouvance-là, c'est-à-dire dans la réaction catholique aux instituts canadiens. Pourquoi? Parce que Joseph-Charles Taché, qui en est fondateur, est un ultramontain convaincu, donc très proche de l'Église catholique, et que, on le verra tout à l'heure, un des autres membres fondateurs, c'est le curé de la paroisse, Cyprien Tanguay, qui est connu par ailleurs pour autre chose, mais à l'époque de l'Institut littéraire, il n'est que le curé de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski. Donc, il s'agit d'un institut qui est probablement beaucoup plus catholique que libéral, mais qui, à l'image de tous les autres instituts, pratique certainement une forme de, je dirais, de syncrétisme idéologique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de définir ou de défendre une idéologie en particulier. Il s'agit plutôt, plus concrètement et plus pragmatiquement, de venir en aide aux membres de cet institut, indépendamment du catholicisme, indépendamment des questions de laïcité, etc., etc. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, l'ensemble de ce mouvement associatif, je pense, a eu des retombées extrêmement positives. C'est-à-dire, si on considère l'ensemble des instituts libéraux comme catholiques, en fait, tous ces instituts-là ont beaucoup contribué à démocratiser à la fois l'accès aux livres, la culture, l'éducation. Et je pense qu'on peut dire ça aussi des instituts catholiques, même si trop souvent on a tendance à les caricaturer comme des sortes d'éteignoirs de la pensée. Dans les faits, et peut-être malgré eux, ces instituts-là ont aussi contribué, comme les instituts canadiens, comme les instituts libéraux, à une sorte de démocratisation du savoir. Bon. Alors, j'en viens maintenant à mon point, c'est une longue introduction, j'en suis bien conscient, vous allez voir que par la suite, je vais aller un peu plus rapidement sur mes points suivants. Alors, l'acte fondateur maintenant, comment sait-on que cet institut a été créé en 1855? Ben, tout simplement parce que on a conservé au Centre d'archives de Québec, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, dans le fond Taché, dans le fond de la famille Taché, un document manuscrit qui constitue en quelque sorte l'acte fondateur, l'acte de création ou l'acte de naissance de cet institut littéraire de Rimouski. C'est une lettre du 15 avril 1855 adressée à Joseph-Charles Taché, qui est une lettre de remerciement que signent les membres fondateurs de l'institut pour remercier Taché du don de 500 volumes de sa bibliothèque personnelle. Alors, juste pour vous dire, avant d'entrer dans le détail de cette lettre-là, jusqu'à maintenant, personne n'a jamais parlé de l'Institut littéraire de Rimouski. Yvan Lamont, je le disais tout à l'heure, dans ses articles qui consacrent au mouvement associatif, ne parle pas de l'existence de l'Institut littéraire de Rimouski. Par ailleurs, la biographe de Taché, Evelyne Bossé, consacre, je pense, en tout une phrase et demie, et encore en disant une phrase et demie, je pense que je suis généreux, à cet institut littéraire de Rimouski, et elle se contente de dire, malheureusement, on ne sait rien à propos de cet institut littéraire de Rimouski. Et dans la plus récente histoire de Rimouski, qui est par ailleurs fort bien faite, qui a été publiée là en 2006, mais là encore, il y a une phrase ou deux, tout au plus, consacrée à l'institut littéraire de Rimouski, avec toujours cette conclusion que, hélas, on ne sait rien de cet institut. Mais en fait, il existe un certain nombre de documents, et notamment cette fameuse acte fondateur, cette lettre de remerciement. Je vous l'ai reproduite ici en facsimilé, donc c'est le manuscrit. Mais, évidemment, c'est jamais très facile de lire même une belle écriture du 19e siècle, donc j'en ai fait une petite transcription, mais vous voyez donc le texte qui est écrit manifestement par Cyprien Tanguay, le curé de la paroisse, et à la suite, vous avez la signature de 28 des membres fondateurs de cet institut littéraire de Rimouski. Alors, je passe tout de suite à ma transcription pour faciliter un peu la lecture. Donc, je lis d'abord le document, puis je commenterai ensuite. « Très estimable monsieur, vous veuillez nous permettre à nous, membres de l'Institut littéraire de Rimouski, de vous présenter nos plus sincères remerciements pour le don si généreux que vous venez de faire à notre institution naissante de votre précieuse bibliothèque comprenant près de 500 volumes. Nous saisissons cette occasion pour vous féliciter de l'honorable choix qu'a fait de votre personne le comité de l'exposition du Canada pour représenter le Canada à l'exposition universelle de Paris. » Bon. Il est un petit peu maladroit, il y a des répétitions quand même assez peu heureuses. Au moment de vous séparer de nous pour entreprendre ce voyage de longue durée, veuillez croire à la sincérité des vœux que nous adressons au ciel pour que l'ange du Seigneur vous conduise sûrement et vous ramène sain et sauf au sein de votre famille et au milieu de vos meilleurs amis parmi lesquels vous voudrez bien nous compter. Rimouski, 15 avril 1855. Et donc, je suis évidemment la signature de 28 des membres fondateurs. À commencer par celle de Cyprien Tanguay, qui apparaît en fait, si on se reporte au document précédent, qui apparaît donc tout en bas de la date et au milieu, donc Cyprien Tanguay avec évidemment sa fonction prêtre. Et puis ensuite, vous avez bon un certain Gauvreau ici, Pierre Gauvreau en l'occurrence, Louis-François Garon, François-Xavier Poulin, L.P. Gauvreau, J. Smith, etc. Donc il y en a 28 ici dans le document manuscrit, mais il y a aussi une version qui sera publiée dans le Journal de Québec à la fin avril 1855, et dans la version publiée, il y a 33 noms. Donc il y a quelques noms en plus, sauf que là je vais me contenter de parler de la version manuscrite,
parce qu'il y a un certain nombre de problèmes avec la version publiée dans le Journal de Québec. Il y a notamment un certain nombre de coquilles qui manifestement relèvent du typographe qui n'a pas bien lu le document manuscrit qu'il avait sous les yeux. Et donc, ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes concerne uniquement la version manuscrite, même si la version imprimée est très intéressante parce qu'elle ajoute quelques membres aux 28 qui sont connus dans la version manuscrite. Alors, ça nous fait donc en tout, si on compte Joseph Charles Taché, évidemment il ne signe pas puisque la lettre lui est adressée, mais évidemment on peut légitimement penser que Taché lui-même faisait partie de l'Institut. Donc il y a 29 membres, ou 34 selon la version manuscrite ou écrite, et parmi ces 29 ou 34 membres, il y a au moins 3 écrivains. En comptant Joseph Charles Taché lui-même, j'y reviendrai. Mon point 2 sera entièrement consacré aux écrivains membres de cet institut littéraire de Rimouski. Je passe maintenant à mon point suivant, un point 2, l'origine sociale des membres de l'institut littéraire. Alors évidemment, grâce aux données du recensement de 1851, j'ai réussi à identifier à coup sûr 27 des 28 membres qui signent la lettre de remerciement. Il y a une signature qui est malheureusement, en tout cas jusqu'à maintenant, illisible, mais pour tous les autres membres, j'ai réussi donc à les identifier de manière plus ou moins certaine grâce aux données du recensement de Rimouski de 1851. Alors je pourrais faire une notice biographique de chacun de ces membres-là, mais ce serait très long et très fastidieux, et comme le temps nous est compté, je veux passer, disons, à l'essentiel, c'est-à-dire à une sorte de typologie sociale des membres de cet institut. Alors évidemment, vous avez le curé de la paroisse hein, qui figure tout en haut et en bonne place. Alors j'ai transposé tout ça en pourcentage. Alors le seul membre du clergé représente 3% de l'ensemble des membres, parce que nous n'avons que 28 membres dans cet institut, donc ça donne des pourcentages un peu étranges et bizarres, mais c'est tout simplement la petitesse de l'échantillon qui explique la bizarrerie des chiffres. Mais à côté de ce curé de la paroisse, alors on imagine bien qu'un curé fasse partie d'un institut littéraire de Rimouski, puisqu'après tout c'est un clerc, c'est un homme lettré, les curés sont quand même les intellectuels, si on veut, du Québec du 19e siècle. Mais à côté de ce curé, nous avons un certain nombre de membres des professions libérales. Hein. Par exemple, Pierre et Louis Gauvreau, qui sont deux notaires. On a le médecin François-Xavier Poulain. On a l'arpenteur Georges Garon. On a le clerc de notaire Jean-Baptiste Lepage. L'huissier Pierre Deroche. On trouve également, et là encore, sans grande surprise, un certain nombre de représentants de la bourgeoisie marchande, comme par exemple Majoric Côté, Jean Lepage, Adolphe Martin, le commis Pierre Chouinard. Ce qui est peut-être déjà un petit peu plus surprenant, c'est la présence d'artisans. On en a deux en tout. Ils s'appellent respectivement Bernard Duberger et Thomas Primo, des personnages qu'on connaît par ailleurs parce qu'ils apparaissent aussi dans les archives notariales. Ces deux témoins de la découverte du bateau de Taché. Vous savez, Taché est un peu mégalomane. Il s'était fait construire un voilier gigantesque qu'il a appelé pompeusement le Rimouski. Mais son voilier était tellement grand qu'en réalité, on ne pouvait pas s'en servir. Il aurait pratiquement fallu une tornade pour arriver à déplacer le bateau. Donc, le pauvre voilier Rimouski était toujours à quai, au quai de Rimouski. Sauf qu'un beau jour, par une horrible tempête, le bateau s'est détaché du quai et il est venu se fracasser sur la rive à la hauteur de Pointe-au-Père. Et donc, comme Taché était absent de Rimouski à ce moment-là, on a décidé de consigner tout ça par écrit devant notaire, et les deux témoins, c'était précisément donc ces deux artisans, Duberger et Primo, qui sont venus attester que malheureusement le bateau était tellement dans un mauvais état qu'on ne pouvait plus rien en faire. Bon. Et puis, ce qui est peut-être encore un peu plus surprenant dans l'identification de ces membres, c'est de voir qu'il y a quand même de très nombreux cultivateurs. Hein. Vous voyez, il y en a 8. En tout sur les 28, ce qui représente 29%, c'est-à-dire qu'il y en a finalement autant que de membres des professions libérales. Alors ça, c'est quand même une donnée extrêmement intéressante pour bien comprendre l'Institut littéraire de Rimouski. Évidemment, je ne vous cacherai pas que dans certains cas, l'identification des membres pose problème, surtout dans les catégories sociales, disons, les plus modestes et les plus humbles. Vous savez que dans cette toute petite paroisse de Rimouski, en 1850, il y avait quand même quelques familles pionnières. Et vous avez peut-être remarqué rapidement là, que la plupart des membres s'appellent Gauvreau ou Tanguay, ou bon, un certain nombre de grands noms qu'on connaît même aujourd'hui. Et, mais simplement, disons, les patronymes courants l'étaient encore davantage au 19e siècle. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, il y a quand même cet usage patriarcal qui consiste à donner à l'aîné de la famille, lorsque c'est un garçon, le prénom du père. Hein, pour, en quelque sorte, perpétuer des dynasties. Et ça se voit dans toutes les classes de la société, aussi bien chez les plus modestes paysans que chez les avocats, notaires, etc. Donc, il y a de très nombreux homonymes. Et donc, on n'est jamais certain de savoir si le membre de l'Institut, c'est le père ou le fils, ou l'oncle ou le cousin, puisqu'il peut y avoir quatre ou cinq personnages qui portent exactement le même nom et qui sont tous vivants en 1855. Sauf que, dans la plupart des cas, ces personnages-là sont tous issus du même milieu. Hein, il peut y avoir quatre homonymes, mais ces quatre homonymes seront tous des cultivateurs ou tous des membres des professions libérales, de sorte que ça ne change rien, si vous voulez, à la typologie que je vous présente là. Alors, pourquoi y a-t-il donc autant de gens qui viennent finalement de catégories modestes? Il faut faire attention parce que, évidemment, quand on parle de cultivateurs, on a tendance à penser que ce sont nécessairement des gens qui vivaient dans une sorte de précarité. Or, il faut voir qu'au 19e siècle, il y a quand même beaucoup de cultivateurs très prospères. Hein. Il y a beaucoup de cultivateurs qui sont au moins aussi prospères que, par exemple, les marchands de Rimouski. Donc, il ne faut pas imaginer des pauvres gens qui sont acculés nécessairement à la famine, mais il reste quand même, les artisans, les cultivateurs sont quand même considérés dans la hiérarchie sociale de l'époque comme des gens qui viennent finalement d'un milieu plus modeste que les membres des professions libérales ou de la bourgeoisie marchande. Alors, pourquoi ils sont-ils aussi bien représentés dans cet institut littéraire de Rimouski? Alors, il y a deux interprétations possibles, une interprétation malveillante et cynique qui consiste à dire que la bourgeoisie du 19e siècle voulait en quelque sorte contrôler les esprits et enrégimenter les paysans et les artisans pour les amener à penser comme eux. Hein. Ça, c'est une version marxiste un peu, je trouve, un peu dépassée. L'autre explication qui m'apparaît beaucoup plus vraisemblable, c'est qu'en réalité, la raison même de l'existence de cet institut, c'est de démocratiser la culture et le savoir. Hein. Et donc, c'est d'accueillir, au fond, tous ceux qui veulent bien en faire partie. Et des esprits curieux, mais il y en a partout, à tous les échelons de la société, dans toutes les sphères d'activité. Et on verra que l'Institut littéraire va évidemment beaucoup tenir compte de sa composition, c'est-à-dire que ce qui va intéresser les membres va nécessairement se refléter dans le choix des conférences qui seront données, dans les livres qui seront donnés à lire à cet Institut littéraire de Rimouski. Alors je passe au point suivant, 1.3, le mandat et les activités. Alors, malheureusement, je n'ai pas retrouvé une caisse complète d'archives de l'Institut littéraire de Rimouski qui me permettrait de vous donner le moindre détail à propos du mandat des activités. En revanche, comme l'Institut littéraire de Rimouski est en tout point conforme aux autres associations et aux autres instituts qui existaient à l'époque, on peut certainement présumer que l'Institut littéraire poursuivait à peu près les mêmes objectifs que les associations analogues de la même époque. C'est-à-dire, et là je crois que ces deux éléments absolument fondamentaux, d'abord et avant tout, remédier à l'inexistence d'établissements d'enseignement supérieur. Hein? Il n'existe pas en 1855 à Rimouski, évidemment, de cégep, ou d'équivalent au cégep, il n'existe pas non plus d'université. La seule université qui existe, c'est l'Université Laval, qui a été fondée en 1852, mais en 1855, l'Université Laval, elle est encore à l'état embryonnaire. Et puis, il faut bien dire aussi ce qui est, c'est que même s'il existe une université francophone depuis 1852, il n'y a que les privilégiés qui peuvent aller à l'Université Laval. Ça coûte quand même assez cher, et les gens qui sont de conditions très modestes n'ont pas les moyens d'aller à l'Université Laval. Donc, on essaie de mettre en place des instituts pour remédier à l'absence d'institutions d'enseignement supérieur, d'une part. Et l'autre élément très important, c'est qu'on met aussi sur pied ces instituts pour essayer de pallier l'absence de bibliothèques publiques. Hein. Les bibliothèques publiques, c'est vraiment, je dirais, quelque chose qui est très important dans la culture anglo-saxonne, mais qui ne l'étaient pas du tout dans la culture francophone traditionnellement. Hein. Et c'est en imitant en quelque sorte ce que les Américains et les Anglais faisaient qu'on s'est dit que ce serait peut-être bien de mettre en commun nos ressources pour qu'on puisse avoir accès à un très grand nombre de livres sans avoir à les acheter personnellement, puisque les livres coûtent très cher. Les gens qui ont des moyens très modestes n'ont pas la possibilité de se constituer une bibliothèque privée, d'où l'idée, évidemment, de mettre sur pied des bibliothèques publiques. Alors, on a un document très précieux qui date de 1897. C'est le discours que le président de l'Institut canadien de Québec va prononcer lors du 50e anniversaire de la fondation de l'Institut canadien de Québec. Et le président de l'époque va, en quelque sorte, essayer de préciser quelles étaient les conditions qui ont présidé à la fondation de l'Institut canadien de Québec. Et je crois qu'on peut reprendre mot à mot ce qu'il dit à propos de l'Institut de Québec pour l'appliquer à l'Institut littéraire de Rimouski. Alors, je lis avec vous, à l'époque où l'Institut canadien fut fondé, Québec était loin d'être intellectuellement outillé comme il l'est aujourd'hui. Les bibliothèques publiques étaient à peu près inconnues. Celle de l'Université Laval n'existait pas encore. Celle du Parlement était à Montréal, alors capitale de la province. La population anglaise avait déjà la Société littéraire et historique à laquelle on allait réunir la bibliothèque de l'Association de Québec. Mais la population française était dépourvue de tout moyen de compléter des études sérieuses. Les riches seuls pouvaient se payer le luxe d'une bibliothèque privée, et les riches ont toujours été rares parmi nous. C'est pour combler un pareil vide que l'Institut fut fondé. En réalité, on pouvait reprendre mot à mot ce texte-là et le mettre dans la bouche de Taché en 1855. Je crois que c'est exactement les mêmes conditions qui expliquent la création de l'Institut littéraire de Rimouski. Alors, il reste évidemment à savoir ce qu'on a bien pu faire des livres donnés par Taché. Donc, on nous parle de 500 volumes en 1855. Qui pouvait y avoir accès? À quel moment? Selon quelle modalité? Et surtout, où étaient conservés ces livres-là? Voilà autant de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Alors, on peut évidemment formuler des hypothèses. On sait qu'à la même époque où on fonde l'Institut littéraire de Rimouski, on va également créer le premier collège agricole et industriel de Rimouski en 1855. Certains des membres fondateurs de l'Institut vont jouer un rôle actif également dans l'enseignement dans ce nouveau collège industriel et agricole. Le curé de la paroisse, Cyprien Tanguay, qui est le fondateur du collège, mais aussi James Smith, dont je reparlerai dans un instant, qui est un des membres fondateurs, mais qui est aussi un enseignant dans ce collège industriel et agricole. Alors, on peut imaginer que peut-être on a utilisé les locaux du collège à la fois pour l'enseignement, mais aussi pour les activités du collège de l'Institut littéraire de Rimouski. Mais c'est une simple hypothèse, et je n'ai absolument aucune espèce de début de preuve que c'était effectivement bien le cas. Par ailleurs, on sait que les instituts avaient une autre fonction, donc en plus de mettre à la disposition de leurs membres des livres et de former en quelque sorte des embryons de bibliothèques publiques, les instituts avaient généralement aussi comme rôle d'organiser des conférences publiques. Hein. Et dans certains cas, pour Montréal et Québec par exemple, on a non seulement le nom des conférenciers, mais on a même le titre des conférences. Dans le cas de Rimouski, hélas, nous n'avons rien, si ce n'est une petite description qui est publiée dans un article du Journal de l'instruction publique qui fait état du don de Taché et qui précise que les membres de l'Institut littéraire de Rimouski se réunissent chaque semaine. Mais bon, il faut faire attention parce que souvent, ce sont des articles qui s'assimilent à une forme de propagande, donc on peut parfois embellir un peu la vérité. Mais en tout cas, si on prend l'article au pied de la lettre, ça aurait été chaque semaine que les membres se seraient réunis, et là je cite le texte, pour discuter ou lecturer. Évidemment, vous aurez reconnu dans lecturer l'anglicisme qui signifie faire une conférence sur tel thème, donc pour discuter ou lecturer sur quelques sujets d'histoire, de philosophie, d'industrie, en présence d'une assistance toujours nombreuse. Alors j'imagine que l'assistance de ce soir est une assistance toujours nombreuse, probablement autant que l'assistance nombreuse de l'Institut littéraire de Rimouski au 19e siècle. Alors, c'est à peu près tout ce qu'on sait, hein, mais ça nous donne quand même une idée et ça nous éclaire sur le fait que, comme tous les autres instituts, l'Institut littéraire de Rimouski organisait des conférences publiques sur au moins trois thèmes, et on peut sans doute ajouter à cela la littérature entendue au sens strict, c'est-à-dire qu'évidemment, littérature au 19e siècle a un sens très très large, très englobant. Hein. Littérature, ça ne désigne pas seulement la poésie, le roman, le théâtre, les contes et légendes, mais ça englobe en réalité l'ensemble des connaissances humaines. Hein. La définition est très encyclopédique et en réalité désigne l'ensemble de ce qui a été écrit dans tous les genres et dans toutes les langues depuis les origines. Hein. C'est ce qui explique que dans un institut littéraire, on puisse parler d'histoire, de philosophie et d'industrie. Bien. Alors, je passe maintenant à mon point suivant. Un point 4, la bibliothèque. Alors, à nouveau, les données nous manquent pour reconstituer la bibliothèque de l'Institut littéraire de Rimouski. Il est évident que j'aurais bien aimé, je suis convaincu que vous aussi, on aimerait tous savoir quels étaient les titres qui composaient ces 500 volumes donnés partagés à l'Institut littéraire de Rimouski. Nous n'avons pas de catalogue à notre disposition. En 1935, Louis-Philippe Romuald Sylvain a cherché à retrouver dans la collection du séminaire, dans la bibliothèque du séminaire de Rimouski, un certain nombre de volumes qui nous permettraient de retracer, enfin de remonter jusqu'au don initial de Taché. Et il a été beaucoup plus chanceux que nous, jusqu'à maintenant, dans notre inventaire ici au Centre Taché, puisque en 1935, il a mis la main sur un tome du dictionnaire de Trivoux, dans lequel il y avait une mention manuscrite très éclairante, datée de 1867, qui disait la chose suivante. Joseph-Charles Taché, écuyer, chevalier de la Légion d'honneur, a donné au Collège de Rimouski toute la bibliothèque de l'Institut de Rimouski. Donc là, je pense qu'on a un élément très précieux qui nous permet justement de dire que, bon, on ne sait pas très bien comment la transmission s'est faite, on ne sait pas très bien ce qui subsiste de ce don initial dans les livres du grand séminaire de Rimouski, mais il reste que, manifestement, la bibliothèque de l'Institut littéraire de Rimouski s'est retrouvée en 1867 dans la bibliothèque du Collège de Rimouski, qui va devenir séminaire de Rimouski en 1870. Ce fameux dictionnaire de Trivoux, il est introuvable à ce jour. Il pourrait très bien qu'il ait fait partie de la collection du Petit Séminaire. Et la collection du Petit Séminaire, comme vous le savez sans doute, a été en grande partie dispersée lorsqu'on a créé le Cégep en 1968. On était un peu contestataire et révolutionnaire à l'époque et on a voulu faire le ménage dans ces vieux livres de curés qui sentaient la poussière. Et donc, du coup, on a malheureusement trop souvent jeté des choses intéressantes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de petite discordance entre l'article du Journal de l'Instruction publique dont je vous parlais tout à l'heure et la lettre manuscrite qu'on a vue au tout début. Hein, dans la lettre manuscrite, on nous parle d'un don de 500 volumes. Dans l'article du Journal de l'Instruction publique, on nous parle plutôt d'un don de 700 volumes. Donc, il y a quand même une différence là, de 200 entre les deux. Et d'autre part, dans l'article du Journal de l'Instruction publique, on nous précise ce que c'est que ces fameux volumes. On nous dit que Taché aurait donné des brochures et des manuscrits précieux. Donc, contrairement au mot « volume » qui semble suggérer des livres imprimés, il se serait peut-être agi davantage de journaux, de brochures, donc d'imprimés, mais des imprimés plus modestes, pas nécessairement bien reliés et pas nécessairement de très grande qualité. Ce qui est intéressant, c'est que les archives de l'Université Laval conservent deux répertoires. Vous les avez là sous les yeux, le répertoire des brochures composant la collection de Joseph-Charles Taché-Écuyer et le répertoire des journaux composant la collection de Joseph-Charles Taché-Écuyer. Alors, qu'est-ce que c'est que ces répertoires? Visiblement, ce sont des répertoires qui ont été constitués en 1858, au plus tard, puisqu'on retrouve dans ces répertoires des livres qui, pour la plupart, enfin des livres, des journaux et des brochures plus exactement, qui ont été imprimés entre 1844 et 1857, c'est-à-dire très exactement les années pendant lesquelles Taché va séjourner à Rimouski. En 57, Taché, là, je le précise, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il va quitter Rimouski pour s'installer à Québec et pour devenir rédacteur en chef du Courrier du Canada, le grand journal ultramontain de l'époque. Alors, en tout, on retrouve dans le répertoire des brochures 375 titres, et dans le répertoire des journaux, on retrouve en tout 165 journaux. Alors, si vous faites un calcul, comme moi, vous allez arriver au total de 540 titres. Ça semble quand même assez bien correspondre à la lettre manuscrite qu'on a vue au début. Évidemment, ce n'est qu'une hypothèse, et en l'absence de preuves, là, je ne peux pas aller plus loin. Mais ce qui est certain, c'est que ces répertoires-là sont calligraphiés de telle manière qu'on imagine difficilement que Taché ait constitué ces répertoires-là pour son usage personnel. Si ça avait été pour son usage personnel, on imagine que ça aurait été écrit d'une manière beaucoup plus, je dirais, beaucoup moins soignée, beaucoup plus rapide. On sent qu'il y a quelque chose d'un peu officiel dans ce document-là, même si on ne sait pas très bien à quel usage ce document-là a été produit. On peut envisager, à titre d'hypothèse, que ça a été un document qui a été fait précisément pour le don officiel à l'Institut, que Taché a voulu garder par-devers lui une copie des titres qu'il a donnés comme une preuve éternelle de sa générosité, pour qu'il puisse contempler son œuvre de bienfaiteur jour et nuit et à n'importe quel moment. Bien. Par ailleurs, si on regarde le contenu même des brochures et des journaux, ce qu'on constate, c'est que ça correspond assez bien, finalement, à l'esprit de l'Institut littéraire de Rimouski. Il y a beaucoup de journaux là-dedans. Or, on sait que les lecteurs du 19e siècle, les lecteurs des instituts, entre autres, vont dans les instituts d'abord et avant tout pour lire les journaux. Et de fait, dans la collection de Taché, on trouve des journaux, à peu près tous les journaux québécois de l'époque, mais aussi tous les journaux importants des États-Unis, du Canada anglais, d'Europe, et des journaux de toutes les tendances politiques. De gauche comme de droite, libéraux comme ultramontains, et ça correspond très bien au goût des lecteurs de l'époque. Les lecteurs du 19e siècle sont d'abord des grands et avides lecteurs de journaux, et ils vont souvent dans les instituts parce que, justement, ils n'ont pas les moyens de s'abonner à un journal, mais là, ils peuvent le lire sans avoir à s'abonner. Donc, ça rend vraisemblable l'idée que ça puisse être peut-être les répertoires de ce que Taché a pu donner à l'Institut littéraire de Rimouski. Par ailleurs, et là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails parce que le temps m'est drôlement compté, il est déjà 8h moins quart. Mais si on regarde les brochures, on voit que dans les brochures, il y a effectivement de l'histoire, il y a effectivement de la philosophie, et il y a effectivement de l'industrie. C'est les trois thèmes des conférences de l'Institut littéraire de Rimouski. Quand on parle d'industrie au 19e siècle, il faut bien voir qu'il ne s'agit pas nécessairement de l'industrie lourde. L'industrie, c'est un terme assez vague qui signifie en gros le développement économique, on dirait aujourd'hui. Et très souvent, ce développement économique repose sur le chemin de fer, sur la construction du chemin de fer. Et effectivement, il y a beaucoup de brochures qui traitent de l'opportunité de créer un chemin de fer, des retombées économiques du chemin de fer. Et c'est vrai que dans les années 1850-1860, c'est l'époque pionnière très importante où on construit des chemins de fer. Le Rimouski va être lié à Québec et Montréal grâce au chemin de fer au tout début des années, fin des années 1860, début des années 70, et ça va créer une sorte de mini-révolution. Et ça va faire dire à quelqu'un comme Arthur Buis que Rimouski est appelé à devenir l'une des villes les plus importantes de la nouvelle Confédération. Bon, il s'est peut-être un tout petit peu trompé, mais quand même, on ne peut pas le blâmer d'avoir été enthousiaste. Alors, deuxième point, les écrivains membres de l'Institut littéraire de Rimouski. Alors, je l'ai déjà dit, parmi les membres de l'Institut, il y a au moins trois écrivains. Et j'entends écrivain au sens strict d'auteur d'une œuvre publiée, tout simplement. On a bien sûr Joseph-Charles Taché, qui est certainement l'écrivain le plus éminent de cet Institut. Mais on a également Cyprien Tanguay, qui est curé de la paroisse, mais qui va devenir rapidement un personnage très connu, le père fondateur de la généalogie au Québec. Et puis, on a un troisième personnage qui est, lui, à peu près inconnu aujourd'hui, mais qui était quand même assez important à l'époque, qui s'appelle James Smith, qui est un pédagogue qui va enseigner, entre autres, au Collège industriel et agricole de Rimouski. Et il faut sans doute ajouter un quatrième auteur, même s'il ne fait pas partie des membres fondateurs, c'est François Magloire de Rome, qui est un protonotaire, c'est-à-dire un greffe de la Cour supérieure, l'équivalent du greffe de la Cour supérieure de nos jours, qui est un grand écrivain et qui arrive à Rimouski au moment même où Taché quitte pour Québec. C'est un peu lui qui va lui succéder, peut-être pas nécessairement à la tête de l'Institut, parce que là encore, on n'a pas de document, mais certainement sur le plan symbolique. Chaque localité au 19e siècle a besoin d'avoir son grand écrivain, en quelque sorte. Et lorsque Taché quitte, c'est de Rome qui va lui succéder, puisque de Rome n'est pas seulement un juriste, c'est aussi un journaliste et un poète très apprécié à l'époque. Alors, on passe tout de suite à notre premier auteur, Joseph-Charles Taché. Alors, c'est très difficile de faire le tour du personnage en quelques mots, parce que c'est un personnage assez déroutant, assez étonnant, qui cadre mal avec la caricature qu'on veut souvent en faire. Hein, on sait, Taché est un ultramontain, le gros mot est lâché, et parce qu'il est ultramontain, trop souvent, on veut en faire un dangereux réactionnaire, donc il ne faut même pas lire le début d'une ligne, parce que ça pourrait en quelque sorte nous contaminer. Mais dans les faits, Taché cadre assez mal, même avec la caricature d'ultramontain qu'on veut en faire trop souvent. C'est un personnage qui a eu une évolution politique assez spectaculaire. Comme il le dit lui-même dans sa jeunesse, dans sa folle jeunesse, lorsqu'il était étudiant en médecine à Québec, il était un vrai républicain et un patriote enragé. Donc, quelqu'un qui se situait à l'extrême opposé de l'échiquier politique, qui était très proche des patriotes. Philippe Aubert de Gaspé, dans ses mémoires, se rappelle avoir rencontré le jeune Taché, alors qu'il était étudiant en médecine à Québec, et que le jeune Taché, par revendication politique, ne portait que des habits en étoffe du pays. Il s'habillait volontairement comme un paysan. Pourquoi? Pour boycotter les produits manufacturés d'Angleterre. Donc c'était vraiment un geste politique et patriotique très fort à l'époque. Et il faut voir que Taché devait passer vraiment pour un hurluberlu. Hein? Parce que la mode de l'époque, c'est la mode de Londres. Hein? Être chic, et Taché vient d'une famille bourgeoise, il est étudiant en médecine, donc c'est quand même pas quelqu'un, c'est pas un paysan vraiment. Et les gens de sa condition, en général, avaient tendance à s'habiller selon la mode de Londres de l'époque, c'est-à-dire en redingote et en chapeau de forme. Et là, il faut imaginer le bon Taché habillé comme un paysan, avec des boutons faits en peau de baudrier, donc en cuir, etc., des chaussures aussi de paysan, donc en cuir bouilli, etc. Alors évidemment, ça devait être détonner un tout petit peu dans son milieu. Donc vous voyez bien que Taché n'a pas toujours été seulement un vulgaire conservateur ultramontain proche du catholicisme, ça a été aussi une sorte de personnage, un patriote exalté, plus patriote encore que Louis-Joseph Papineau. C'était en tout cas un homme touche-à-tout, hein. Un homme qui était, je dirais, autant un penseur qu'un homme d'action. C'est un esprit encyclopédique. Je le disais en introduction, mais je le répète, Calvin considérait qu'il était le plus universellement érudit des Canadiens. Il a laissé une œuvre extraordinairement abondante dans tous les genres. Aujourd'hui, je ne vais parler que de son œuvre littéraire. Mais notre journée d'études, si elle s'intitule Joseph-Charles Taché, polygraphe, c'est qu'il a beaucoup écrit à côté de ses œuvres littéraires. Il a été, alors, tour à tour, médecin, homme politique, conseiller municipal, député, sous-ministre de l'agriculture. Il a également été journaliste, écrivain, poète, conteur, pamphlétaire, idéologue, directeur de revues littéraires, rédacteur d'un grand quotidien, ce sera le Courrier du Canada, le journal ultramontain. Donc vous voyez quand même que c'est un homme dont la carrière est extraordinairement complexe et riche. Alors chacune de ces vocations-là appelait évidemment, faisait appel à une multitude de compétences et de talents. Et je vais juste donner un exemple de ça. En tant que sous-ministre de l'agriculture à Ottawa, donc c'est sa carrière la plus longue, de 1864 à 1888, bien, Taché ne s'occupait pas juste de patates. Hein. Faut pas imaginer que le sous-ministère de l'agriculture, à l'époque, c'était qu'une affaire de patates. En fait, en réalité, en tant que sous-ministre de l'agriculture, Taché s'occupait autant de questions de santé publique. Il y a eu d'importantes épidémies de choléra, entre autres, au 19e siècle au Canada. Hein? Et l'autorité politique qui devait s'occuper de ces problèmes-là, c'était le ministère de l'Agriculture. En tant que sous-ministre de l'Agriculture, il a également dû s'occuper de problèmes d'amélioration des cultures potagères. Des questions, là, pour le coup, de culture de pommes de terre. Ça, c'est vrai, puisque la pomme de terre est l'aliment de subsistance par excellence au 19e siècle. Or, au 19e siècle, apparaît une épidémie de ce qu'on va appeler de nos jours familièrement de bébites à patates. Bon, les fameuses bébites à patates aujourd'hui nous font rire, mais au 19e siècle, ça faisait plutôt pleurer les gens, puisque ça pouvait détruire des récoltes complètes de pommes de terre. Or, Taché va écrire une plaquette sur la manière de combattre la chrysomèle, la mouche à patates. Et alors, il va recommander l'utilisation de produits chimiques absolument horribles et toxiques qui provoquent généralement la mort à court terme, mais peu importe. Au moins, sur le coup, ça permettait de tuer aussi les bébites à patates et donc d'avoir des pommes de terre. Bon. Mais il va aussi s'intéresser en tant que sous-ministre de l'Agriculture aux questions de recensement de la population. Aujourd'hui, c'est Statistique Canada qui s'occupe de ça. À l'époque, c'est le ministère de l'Agriculture. Et il va enfin, toujours en tant que sous-ministre de l'Agriculture, s'intéresser à des questions de droit d'auteur, puisque quand on publie un livre, on va enregistrer notre livre auprès du ministère de l'Agriculture à l'époque. Donc, vous voyez un peu là l'extraordinaire diversité de questions qui intéressaient Taché nécessairement. Alors, il est né à Kamouraska en 1820, je l'ai dit. Il va faire ses études de médecine à Québec et très surprenamment, il va décider, une fois médecin, de s'établir à Rimouski. Et ça va surprendre tous ses amis, tous ses contemporains, parce que Rimouski, à l'époque, est vraiment perçu comme le bout du monde. Hein. Même du point de vue de Kamouraska, Rimouski est très loin, puisque les voies de communication sont encore embryonnaires. La plupart du temps, il faut faire le voyage par le fleuve pour arriver jusqu'à Rimouski. Les routes sont difficilement praticables, et en particulier l'hiver, par période de tempête, etc. Et Taché, donc, déjà là, une fois de plus, fait figure d'original. Non seulement il s'habille en paysan pour boycotter l'Angleterre, mais là, une fois qu'il a fini ses études de médecine, il décide de s'établir à Rimouski. Pourquoi est-ce qu'il décide de s'établir à Rimouski? Bon, on le verra tout à l'heure, il s'en explique lui-même dans un article publié en 1846. Mais avant d'arriver là, je veux insister sur un détail très important de sa vie, qui est capital à garder à l'esprit, c'est que Taché, toute sa vie, a été très actif dans le mouvement associatif. Il a été membre fondateur d'à peu près tous les instituts et de toutes les associations littéraires du Québec de l'époque, évidemment, là où il était présent, dans les villes où il était présent. Alors, par exemple, en 1842, il est membre fondateur de la Société des Amis de Montréal. Cette Société des Amis de Montréal va être avalée par l'Institut canadien de Montréal en 1847. Donc, autrement dit, il était membre fondateur de la société qui va donner ensuite naissance à l'Institut canadien de Montréal. Aussi bien dire que c'est un membre fondateur de l'Institut canadien de Montréal. Il a également été membre fondateur d'une société éphémère qui s'appelait la Société canadienne d'études littéraires et scientifiques de Québec, qui a existé entre 1843 et 1845. Il a été membre fondateur de l'Institut canadien de Québec, qui a été créé en 1847. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui aime cette vie associative, qui est un personnage qui croit beaucoup dans cette cause-là, et ça n'est pas étonnant que c'est lui, finalement, qui va prendre l'initiative de créer l'Institut littéraire de Rimouski en 1855. En 1846, il est correspondant de l'Institut canadien de Montréal à Rimouski, et il publie dans le journal Les Mélanges religieux un long article pour décrire le comté de Rimouski. Et c'est dans cet article qu'il va dévoiler son goût marqué pour, d'une part, la vie des bois, ça motive son choix de Rimouski à l'époque, mais aussi son goût très marqué pour les cultures amérindiennes. Et c'est ces deux raisons-là qui expliquent son établissement à Rimouski. C'est le passage que vous avez sous les yeux, c'est ici que j'ai fixé mon séjour, loin de la ville, où des amis que je remercie de leurs ailes me faisaient un bel avenir au milieu des riches et des puissants. Mais je ne me sentais pas de taille, je suis avec Béranger de la vie de Turlupin. Si j'allais voir le roi, je voudrais qu'il ôte sa couronne quand je mettrais chapeau bas. D'ailleurs, il me faut l'air de la mer, la vue du grand fleuve, les cris du goéland, et puis j'aime tant à m'asseoir au foyer du vieux compteur. Alors, ce foyer du vieux compteur, c'est extrêmement important dans l'œuvre littéraire de Taché. En réalité, on le verra tout à l'heure, un bon nombre de ses textes sont directement inspirés par des contes et légendes que de vieux compteurs de Rimouski et des environs lui ont raconté à Rimouski. Dans ce court texte, que je ne peux pas citer au complet ici, on sent aussi en germe toutes les préoccupations de l'œuvre de Taché à venir. Le souci de recueillir les contes et légendes, évidemment, que vous voyez là dans ce goût pour les vieux conteurs, mais aussi on voit son souci de décrire les ressources et les richesses du terroir qui est le sien, du terroir laurentien de manière générale, et c'est ce qu'il va beaucoup faire en 1855 lorsqu'il sera représentant officiel du Canada à l'exposition de Paris. Il va multiplier les publications pour décrire le Canada, pour décrire les richesses du Canada, et il a déjà un peu ce projet-là dans l'article de 1846, dans le passage, le deuxième passage que je vous lis. Je voudrais que l'Institut canadien entreprît un ouvrage qui soit une topographie du Canada en même temps qu'une petite excursion de touristes à travers notre beau pays, et dont chaque partie séparée serait confiée à une ou plusieurs personnes. Chacune de ces personnes ferait donc une description du comté où elle réside ou qu'elle a bien connu. On pourrait joindre à ce rapport quelques pièces littéraires destinées à perpétuer le souvenir de quelques légendes populaires et faire du tout un ouvrage qui serait une œuvre vraiment nationale. Alors là, vous avez la formulation d'une des premières définitions de la littérature québécoise, de littérature nationale, qui associe la littérature à la volonté de préserver des légendes populaires, des contes et légendes. Généralement, dans l'histoire de la littérature québécoise, on considère que c'est l'abbé Casgrain, en 1860, qui a eu cette géniale idée. Or, on voit bien là, qu'au moins 14 ans avant, Taché a exactement la même idée, mais dans un texte qui, jusqu'à maintenant, est à peu près inconnu et que personne n'avait lu. Bien, alors, je vais revenir à Taché tout à l'heure, donc j'abrège et je passe à mon personnage suivant, Cyprien Sanguin, notre curé de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski, de 1850 à 1859. Alors, il est un des membres fondateurs de l'Institut. Il sera également un des membres fondateurs du Collège industriel et agricole de Rimouski, le tout premier, qui est fondé exactement la même année, en 1855. Tanguay, en 1853, va envoyer à l'archevêque de Québec un projet de collège, et c'est ce projet de collège qui va être mis en œuvre en 1855 et qui va être fondé quelques mois à peine après l'Institut littéraire de Rimouski. Mais, je dirais, le principal titre de gloire de Cyprien Tanguay, c'est d'être le père fondateur de la généalogie. Hein, vous savez, la Société généalogique de l'Est du Québec remet chaque année, je pense. Est-ce que c'est la Société généalogique de l'Est du Québec ou la Société généalogique du Québec? En tout cas, il y a un grand prix en généalogie qui porte le nom de Cyprien Tanguay. C'est le prix Cyprien Tanguay qui récompense hein, le meilleur généalogiste et qui est remis chaque année. Alors, ce n'est pas un hasard, c'est qu'en fait, Tanguay est considéré à juste titre comme le fondateur de la généalogie au Québec. Alors, comment a-t-il pu devenir généalogiste? Comment passe-t-on de curé de Rimouski à généalogiste? Ben, en fait, il faut connaître les bonnes personnes. Et la bonne personne, en l'occurrence, c'est Taché, puisque c'est en 1865 que Cyprien Tanguay va être nommé ou sous-ministère de l'agriculture, à l'instigation de qui? Ben, évidemment, de Taché. Et quelle est la fonction de Tanguay, lorsqu'il devient fonctionnaire du sous-ministère de l'Agriculture, mais ça va être, et là je cite les archives de l'époque, de constituer la statistique civile et religieuse à dater des premiers temps du pays. Et donc c'est grâce aux données auxquelles il a accès au sous-ministère de l'Agriculture que Tanguay va pouvoir constituer son célèbre dictionnaire généalogique des familles canadiennes. Ça va être publié, comme vous le savez, en plusieurs tomes. Je crois qu'il y en a 7 en tout, si ma mémoire est exacte. Et c'est publié de 1871 à 1890. Évidemment, alors, semble-t-il, les Français de l'époque ont été très impressionnés par ce dictionnaire généalogique et ils l'ont même surnommé le livre d'or du Canada. Mais ce qui est peut-être le plus important, c'est de garder à l'esprit le fait que, d'une certaine façon, ce dictionnaire généalogique est une retombée indirecte de l'Institut littéraire de Rimouski. Alors, évidemment, le dictionnaire a été écrit à Ottawa, il a été publié à Montréal, mais il reste que si ce dictionnaire a pu voir le jour, c'est grâce aux liens qui ont été noués à l'époque de Rimouski et dans le cadre des activités de l'Institut littéraire de Rimouski. On peut se dire, oui, mais qu'est-ce que la généalogie a à voir avec qui intéressait les membres de l'Institut littéraire de Rimouski, qui s'intéressait après tout à l'histoire, à l'industrie, à la philosophie, je me répète. Donc, que vient faire la généalogie là-dedans? Mais la généalogie est très importante. Aujourd'hui, évidemment, on peut considérer que la généalogie est un passe-temps, comme un autre, mais au 19e siècle, c'est une science auxiliaire de l'histoire. On ne peut pas faire d'histoire sans faire de généalogie à l'époque, et c'est même, je dirais, un élément indispensable. Tout bon historien a besoin des données de la généalogie à l'époque, si bien que, il y a un lien très direct, hein, la généalogie et l'histoire, ça marche presque main dans la main, et l'histoire, on le sait, intéressait beaucoup les membres de l'Institut littéraire de Rimouski. Alors, il ne faut pas s'étonner si, dans le premier tome publié en 1871, on retrouve un poème en tête du dictionnaire, qui est évidemment dédié à M. Joseph-Charles Taché. Alors, je vous lis la strophe la plus émouvante, qui va comme suit. « Je vois briller sur ta poitrine la noble étoile de l'honneur, à ton front la splendeur divine du savant, du littérateur, tes talents, ta vertu, ton zèle, ont fait seul toute ta grandeur, honneur au citoyen modèle. » Évidemment, le citoyen modèle, c'est Taché lui-même. Bien. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails non plus, je suis un peu pressé, mais disons simplement qu'il existe des liens très évidents entre le Collège industriel et agricole fondé par Tanguay et les activités de l'Institut littéraire de Rimouski. Dans les deux cas, semble-t-il, on s'est beaucoup intéressé à l'agriculture. Et il semble y avoir eu, en quelque sorte, des liens très évidents entre la culture et l'agriculture, même si aujourd'hui, de nos jours, nos préjugés font qu'on a tendance à vouloir absolument dissocier les deux. À l'époque, il semble que les choses soient toujours allées plus ou moins de pair, et tous ceux qui ont été actifs au sein de l'Institut littéraire de Rimouski, à un moment ou à un autre de leur carrière d'auteur, d'écrivain, se sont intéressés à l'agriculture. Ce sera le cas avec Taché, je vous ai parlé de sa plaquette sur la bibite à patates, c'est un texte qu'il va publier en 1877, mais c'est également vrai de l'autre auteur dont je vais maintenant vous parler, James Smith, qui est un pédagogue, qui est un personnage assez peu banal, né à Caraquet au Nouveau-Brunswick, qui a été tour à tour donc pédagogue, évidemment, écrivain, mais aussi agriculteur. Il va terminer ses jours dans la vallée de la Matapédia. Ça sera un des pionniers, un des en quelque sorte, des fondateurs de la vallée. Vous savez que la vallée n'a pas été habitée de tout temps. Oui, pardon?
À cause abscale.
À cause abscale, c'est ça. Et voilà, donc la vallée, en quelque sorte, est colonisée au 19e siècle. Hein? Et James Smith est un des personnages de cette épopée haute en fait d'armes et en couleurs. Bon. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que James Smith est membre fondateur de l'Institut, évidemment, mais il sera aussi un des premiers enseignants du Collège industriel et agricole. Il va enseigner dans ce collège l'agriculture, l'anglais et les mathématiques de 1856 à 1862. Comme écrivain, il va collaborer à de nombreux journaux, dont Le Canadien, qui est quand même le grand journal du 19e siècle, La Vérité, mais aussi le Moniteur acadien de Chédiac, qui est un des premiers journaux acadiens créés au 19e siècle. En 1862, comme vous le voyez là à l'écran, il va publier Les éléments de l'agriculture à l'usage de la jeunesse canadienne. C'est certainement un manuel pédagogique que les élèves du collège devaient consulter, puisque James Smith y est présenté hein, comme professeur d'agriculture au Collège agricole et industriel de Rimouski. Beaucoup plus tard, en 1883, il va publier ce qui est sans doute son œuvre la plus littéraire, à savoir Les soirées de la baie des Chaleurs ou Entretien sur l'éducation de l'enfance. Il s'agit donc de dialogues pédagogiques qui sont extrêmement intéressants parce que je crois que là, on pourrait trouver beaucoup des principes pédagogiques de l'Institut et du Collège industriel et agricole de Rimouski. C'est un livre qui est fortement imprégné par le gaumisme. Je n'entre pas dans les détails, mais le gaumisme, évidemment, c'est les doctrines d'un certain M. Gaume, qui notamment voulait interdire dans l'enseignement les classiques gréco-latins. Parce qu'il jugeait que l'influence du paganisme pouvait être néfaste. Si bien que, selon lui, il aurait fallu n'enseigner que des auteurs chrétiens. Donc, voyez un peu l'esprit. Hein, et ça montre bien que les membres fondateurs de l'Institut littéraire de Rimouski sont certainement beaucoup plus proches de la réaction catholique que des instituts canadiens. Je n'insiste pas davantage sur James Smith, même si c'est un personnage tout à fait fascinant. Et je passe à mon dernier personnage, qui est François Magloire de Rome. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Ça n'est pas un des membres fondateurs de l'Institut, puisqu'il n'est pas à Rimouski en 1855, il va arriver seulement en 1857, lorsqu'on va créer le nouveau district judiciaire de Rimouski. En créant un nouveau district judiciaire, il nous faut un nouveau protonotaire, ce sera François Magloire de Rome. Juste avant de devenir protonotaire, il était rédacteur du Canadien, donc un journaliste très en vue. Mais même avant d'être journaliste très en vue, ça a été surtout un grand poète. Hein, la première anthologie de la littérature québécoise a été publiée en 1848 par un certain James Houston, ça s'appelait le Répertoire national. Et dans ce Répertoire national, ben, vous avez donc des pièces, des morceaux d'anthologie, surtout des poèmes, mais quelques passages aussi de textes narratifs, des nouvelles, des courts textes, des extraits de romans. Et il se trouve que, ça nous permet de, en quelque sorte, mesurer la notoriété de Rome à l'époque, même si aujourd'hui c'est devenu un illustre anonyme. À l'époque, de Rome jouit d'une immense popularité, d'une immense réputation d'écrivain, puisque en ordre, d'importance, de nombre de pièces dans l'anthologie, de Rome est le troisième dans l'anthologie de James Houston. Donc, c'est vous dire un peu l'importance littéraire du personnage. Et, évidemment, une fois à Rimouski, il va se consacrer à sa carrière juridique, mais il va continuer de publier un certain nombre de textes et de poèmes qui, d'une façon directe ou indirecte, s'inscrivent là aussi, je pense, dans les activités littéraires de l'Institut, même si on ne sait pas très bien quel rôle concret
de Rome a pu jouer dans les activités de cet institut. Il y a entre autres un poème très célèbre qui sera publié dans le Foyer canadien en 1866, qui s'intitule « Voyage à Rimouski par eau ». Et c'est un poème assez long, mais qui va souvent être repris par la suite pour être commenté, entre autres par Arthur Buis, qui trouve que vraiment de Rome est le pire des poètes sur Terre, mais qui va être également repris dans la publication collective qui est appelée « La chronique de Rimouski », dont je vais reparler en conclusion, qui est une sorte d'ouvrage collectif qui évoque, au fond, tout ce que les membres de l'Institut ont pu faire. Alors, je lis quand même le passage, parce que c'est très, très connu. Au parage lointain où le fleuve est immense, non loin des grandes eaux où l'océan commence, sur un banc de récifs et dans l'ombre du soir, l'île Saint-Barnabé dessine un long trait noir. Il faut jusqu'au détour en suivre le rivage. Par derrière s'élève au midi sur la plage le bourg de Rimouski, déjà tant orgueilleux de l'honneur infini d'être l'un des chefs-lieux. Alors, il faudrait lire en parallèle le commentaire d'Arthur Buis, qui est absolument hilarant et qui n'en revient pas que Rimouski puisse avoir l'honneur infini d'être l'un des chefs-lieux. Et évidemment, on comprend pourquoi c'est si important pour de Rome, hein, parce qu'un chef-lieu, c'est l'endroit où se trouve le siège d'un district judiciaire. Et c'est très important que Rimouski soit un chef-lieu, parce que si Rimouski n'avait pas été un chef-lieu, de Rome n'aurait jamais déménagé à Rimouski. Hein? C'est son travail qui en dépend. Bon, alors, mais c'est un passage aussi très important pour l'Institut parce que, pour au moins, je dirais, deux raisons. D'abord, de Rome, c'est un grand bibliophile, un grand collectionneur de livres. C'est probablement le plus grand collectionneur de livres à Rimouski au 19e siècle. À sa mort, on va vendre à Lancan sa bibliothèque et cette bibliothèque est constituée de 1500 volumes. C'est énorme pour l'époque, c'est toujours impressionnant aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est vraiment considérable. Un certain nombre de ces livres vont être offerts à des personnages, des ecclésiastiques entre autres, qui vont ensuite donner ces livres-là à la collection du Grand Séminaire. Donc, on a un certain nombre de livres qui ont été donnés par de Rome à des personnages ecclésiastiques importants de Rimouski au 19e siècle, et ces livres-là se retrouvent dans la collection du Grand Séminaire. Je pourrais vous en montrer des exemples à la fin si ça vous intéresse, mais aussi un certain nombre de livres qui vont être vendus à Lancan, qui vont être achetés et qui vont entrer dans la collection du Grand Séminaire à ce moment-là. C'est aussi le personnage qui va jouer un rôle très important d'intermédiaire au moment où la collection de l'Institut va être transférée au Collège de Rimouski. Je vous ai parlé de la note manuscrite que Mgr Sylvain avait retrouvée en 1935, mais tout à l'heure, je ne vous l'ai pas cité au complet. En fait, la fin de la note se lit comme suit. « Ce volume a été délivré à Messire Potvin par J. Magloire de Rome, écuyer protonotaire, en octobre 1867. » Alors, il y a une erreur, évidemment. C'est pas J. Magloire de Rome, mais c'est F. Magloire de Rome, sauf qu'évidemment, comme vous savez, à l'époque, tous les hommes baptisés avaient Joseph dans leur nom, donc forcément, en mettant J, on ne se trompait jamais, puisque tout le monde s'appelait au moins Joseph. Mais en fait, là, ça aurait été F qu'il aurait fallu mettre. Mais toujours est-il qu'on sait que c'est Magloire de Rome qui joue les intermédiaires. C'est lui qui permet, en quelque sorte, le transfert de la bibliothèque de l'Institut vers le collège qui va bientôt devenir le séminaire. Et dernier point, je m'arrête là-dessus, ben de Rome, comme Smith, comme Taché, malgré ses airs de grand dandy, c'est un personnage qui s'intéresse beaucoup à l'agriculture. Il va publier un des premiers manuels d'agriculture en 1853, le manuel élémentaire et pratique de l'art agricole, donc c'était bien avant son arrivée à Rimouski. Mais il reste que c'est quelqu'un qui s'intéresse à ces questions-là et qui, pour cette raison-là, a probablement été actif dans les activités de l'Institut littéraire de Rimouski. En 1880, l'année de sa mort, dans un des derniers textes qu'il publie, il écrit la chose suivante, qui est tout à fait typique de l'esprit de l'époque, mais sans doute aussi de l'esprit de l'Institut, à savoir l'agriculture et la compagne, mais surtout l'auxiliaire indispensable des opérations manufacturières. Hein? Donc, on continue à penser que l'agriculture est un peu l'alpha et l'oméga de tout, que c'est ce qui va permettre le développement économique, mais aussi même le développement industriel, même si, bon, il y a quelque chose d'un peu incohérent là-dedans, là, de notre point de vue moderne, mais pour les contemporains, ça n'est pas du tout incohérent. Alors, je passe maintenant à mon dernier point, et chouf, parce qu'il me reste 30 secondes pour parler des quatre points consacrés à Taché. Donc, si je peux abuser de votre patience, je vais quand même essayer de m'accorder plus que 30 secondes, mais tout en étant fort bref. Alors, l'œuvre de Taché, l'Institut littéraire de Rimouski. Je l'ai dit tout à l'heure, Taché est certainement l'auteur le plus important de cet institut-là. C'est un écrivain majeur. On a souvent tendance à beaucoup insister sur son rôle politique à juste titre, mais je crois que c'est encore un personnage plus important comme écrivain. Et là, ça dépasse très clairement les frontières de Rimouski. C'est un écrivain majeur de la littérature québécoise du 19e siècle, toute région, toute ville confondue. C'est probablement l'auteur qui a écrit les contes et légendes les plus importants au 19e siècle. Et ce qui, jusqu'à maintenant, n'a pas été vu, c'est le fait que toute cette œuvre littéraire remonte à l'époque de son séjour rimouskois et est probablement à mettre en lien avec les activités de l'Institut littéraire de Rimouski. Et c'est là-dessus que je voudrais insister dans les quelques minutes qui me restent. Alors, premièrement, tâchez... va contribuer activement aux activités de l'Institut littéraire de Rimouski lorsqu'il sera à Paris comme représentant du Canada à l'Exposition universelle de Paris. Pendant son séjour à Paris, il va entretenir une correspondance nourrie avec les membres de l'Institut pour leur relater les détails de son séjour en Europe, pour leur faire part aux membres des découvertes qu'il fait en Angleterre d'abord, puis en France et puis à Paris. Il faut voir que cette correspondance-là, mais là vous avez une lettre manuscrite, mais en fait, cette correspondance-là va être publiée, il y a 15 lettres en tout, qui sont très longues, qui sont des comptes rendus extrêmement étoffés et détaillés, tout ça va être publié dans le Journal de Québec. Et dans le Journal de Québec, comme dans les versions manuscrites, le correspondant, le destinataire, c'est l'Institut littéraire de Rimouski. Et toutes les lettres sont adressées à M. le secrétaire, et M. le secrétaire... Curieusement, moi j'ai toujours pensé que c'était Cyprien Tanguay, mais je me suis aperçu dans la version imprimée dans le Journal de Québec que le secrétaire, c'est en fait Louis-François Garon, qui est, comme on dit à l'époque, registrateur. Alors c'est un poste administratif quelconque, je ne sais pas quel serait l'équivalent aujourd'hui, je pense que ce serait le registrateur, ce serait le... pas le registraire, mais quand on, par exemple, on veut inscrire une propriété foncière ou un terrain, là, il faut aller voir un bureau quelconque, la municipalité. Là, ce serait, je pense, à peu près l'équivalent au 19e siècle. Mais, donc, c'est Louis-François Garon, et donc, toutes ces lettres-là sont adressées à l'Institut littéraire de Rimouski. Et on voit que c'est extrêmement riche comme correspondance. Là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. J'ai fait deux articles là-dessus. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en donner la référence. Mais c'est évident que ça participe du même esprit que les activités de l'Institut littéraire de Rimouski, puisqu'effectivement, il parle beaucoup d'histoire, beaucoup d'industrie et beaucoup de philosophie, mais il parle de beaucoup d'autres choses que de l'industrie, de l'histoire et de la philosophie. En fait, il va essayer d'offrir une sorte de topographie de la France et de l'Europe, comme il proposait de le faire déjà pour le Canada en 1846. Il va, à l'usage donc de ses concitoyens rimouskois, entremêler descriptions du paysage, de la géographie, des lieux, mais aussi descriptions des mœurs, des coutumes, de la littérature, et toujours avec une évidente émotion presque filiale à l'égard de la France. Taché est un francophile, à la puissance 1000, et visiblement, il est très ému d'être en France, parce qu'il considère que la France est la mère patrie de tous les Québécois, et qu'il a l'impression, en fait, d'être chez lui, d'avoir traversé l'océan, d'avoir fait un voyage de 3 semaines, mais d'être chez lui comme s'il n'avait finalement pas bougé, en quelque sorte. Et il faut voir que 1855, c'est une date très importante dans les relations franco-québécoises, puisque c'est la première fois qu'on renoue officiellement les liens politiques entre la France et le Québec depuis la conquête. 1855, c'est Napoléon III qui règne en France, donc un empereur, mais un empereur qui est très proche de l'Angleterre et qui va conclure un accord de paix avec l'Angleterre, ce qui va permettre de renouer les liens avec le Québec, qui évidemment, à l'époque, est une colonie anglaise. En fait, qui est toujours une colonie anglaise, si on veut faire de la polémique, mais en tout cas, au 19e siècle, disons que c'est très évident que le Québec est une colonie anglaise. Et donc, on va, en 1855, envoyer le premier bateau, qui va s'appeler la Capricieuse, qui va arriver dans le port de Québec en juillet 1855. Il va y avoir une émotion extraordinaire. L'équivalent, le seul équivalent qu'on puisse trouver, c'est le voyage du général de Gaulle en 67 et son discours « Vive le Québec libre ». C'est la même chose, mais avec la Capricieuse en 1855. Alors, je vous donne simplement un petit extrait. Ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas le plus intéressant, mais il faudrait tout citer pour que ce soit vraiment intéressant. Alors, c'est la première lettre que Taché consacre à la description de Paris.
qui commence par, comme suit. Monsieur le secrétaire, j'éprouve le plus grand embarras à commencer ces correspondances où je dois vous parler de Paris. Vous concevez qu'il n'y a là que l'embarras du choix néanmoins, car les sujets ne manquent pas. Mais Paris a une physionomie tellement à part, diffère tellement des autres villes, que vous ne pouvez en donner les caractères distinctifs que dans une suite de tableaux. Et évidemment, s'ensuit la fameuse suite de tableaux, il donne différents éclairages sur la ville de Paris. Mais Taché, évidemment, a aussi une œuvre littéraire qui va être publiée bien après son séjour à Moscou, mais qui néanmoins se rattache aux activités de l'Institut littéraire de Rimouski, entre autres les trois légendes de mon pays, qui vont paraître dans la revue qu'il fonde en 1861, qui s'appelle Les Soirées canadiennes. On a des exemplaires là, des premiers numéros des Soirées canadiennes, ça fait partie du fond du grand séminaire de Rimouski, c'est exposé sur le petit lutrin qui est, pour certains d'entre vous, devant vous, ou sinon derrière vous. Vous pourrez feuilleter ça après. Alors, évidemment, on pourrait dire, mais pourquoi des textes publiés en 1861 auraient été écrits à l'époque où Taché est à Rimouski et où est actif l'Institut littéraire? Je pense que la raison est fort simple, c'est qu'en réalité, avant 61, Taché n'avait pas de moyens de diffusion à sa disposition. Et c'est en 61, lorsqu'il fonde sa propre revue, qu'il trouve enfin un lieu de publication pour ses textes. Mais évidemment, ça n'est pas un argument suffisant, il faut voir le détail du texte, alors je n'ai pas vraiment le temps d'entrer dans les détails, mais je voudrais quand même simplement insister sur le fait que on sait que le troisième texte important qui paraît dans les Soirées canadiennes, l'île Saint-Barnabé, dont je parlerai dans quelques minutes, dans quelques secondes, a été écrit à coup sûr à Rimouski pendant son séjour à Rimouski. Ce qui rend vraisemblable que les textes publiés avant aient été également écrits à l'époque où Taché séjourne à Rimouski et à l'époque où est actif l'Institut littéraire de Rimouski, d'autant plus que tous ces textes mettent en scène Rimouski et l'arrière-pays rimouskois. C'est vraiment, je dirais, le fondement même de ses œuvres littéraires. Dans le cas des trois légendes de mon pays, Taché, nous précise que la deuxième légende de ce pays, il la tient d'un vieux conteur. On a vu en 1846 que ce qu'il avait attiré à Rimouski, c'était notamment la possibilité de fréquenter de vieux conteurs. Or, la deuxième légende des légendes de mon pays, il la tient aussi d'un vieux conteur, mais d'un vieux conteur bien particulier, puisqu'il s'agit d'un Amérindien. Je vous cite, « Je tiens les détails de la seconde légende, le Sagamo de Capscook, de mon vieil et bon ami, Louis-Thomas le Malécite, chef de sa tribu, digne vieillard maintenant dans sa 93e année. » Et ça, je crois que c'est assez typique de Taché, ce goût pour les cultures amérindiennes qui est très marqué chez lui et qui n'est pas du tout courant à l'époque. À la même époque, Cassegrain met en scène les Amérindiens toujours comme des personnages barbares et sanguinaires, des scalpeurs impénitents. Alors que Taché, lui, manifestement, il a non seulement une fascination pour les Amérindiens, mais même un très grand respect, voire une admiration pour les cultures amérindiennes. Il est le premier à réunir une collection d'artefacts amérindiens qui est aujourd'hui conservée à l'Université Laval. Paraît-il qu'à l'époque où il est ici à Rimouski, il y arrive très souvent de camper sur le bord de la rivière Rimouski avec les Malécites. Et donc, son bon et vieil ami Louis-Thomas le Malécite, le chef de sa tribu, c'est des Malécites de la région des Rimouski, qu'il a fréquenté à l'époque où il était à Rimouski. Et Cassegrain, dans un témoignage très important, nous raconte un peu la vie de Taché à l'époque où il est à Rimouski. Je vous cite ce texte-là qui est très éclairant, à la fois pour les trois légendes et pour le texte suivant. Ça va me permettre d'abréger ce que j'ai à vous dire à propos des forestiers voyageurs. Donc, le texte de Cassegrain va comme suit. À Rimouski, sa réputation d'homme éminent l'avait devancé. Il eut la confiance et l'amitié de tous, il fut la lumière et l'honneur de son comté, sa pratique de médecin qui l'entraînait sur cette côte favorisait ses goûts d'aventure. Il visita les deux rives du fleuve, vécut de la vie des bois, séjourna dans les chantiers, dans les camps de bûcherons, observa les mœurs de nos voyageurs, s'assit dans le wigwam des Micmacs et des Montagnais, étudia tout, prit note de tout. Et une bonne partie, je dirais, de ces expéditions de sachets auprès des bûcherons, des forestiers ou des Amérindiens se trouve transposée dans son œuvre, dans les trois légendes de mon pays, où on sent partout cette espèce de fascination pour la culture amérindienne. Et c'est là qu'on voit que Taché n'est pas simplement la caricature d'ultramontain qu'on fait de lui trop souvent, parce que, par exemple, évidemment, Taché est ultramontain. Donc, il va dire, par exemple, que l'évangélisation des Amérindiens était une bonne chose. Mais dans le même temps et dans le même souffle, il va dire aussi que malheureusement, les Amérindiens, en se christianisant, ont beaucoup perdu au change, puisqu'ils ont perdu leur culture ancestrale, qui est une culture qui fascine Taché extraordinairement. Donc il y a une sorte de contradiction chez cet homme-là. Il est à la fois, je dirais, un propagandiste extraordinaire du catholicisme, puis en même temps, un personnage qui est fasciné par les cultures amérindiennes. Alors par exemple, je vous cite la conclusion de la première légende de mon pays. Vous allez voir tout de suite ce que Taché pense des cultures amérindiennes. « Quelle belle race, cependant, que celle des nations sauvages du Canada. » Le terme de race ici n'est pas employé dans un sens raciste ou biologique. « Quelle sève et quel caractère au milieu de cette sauvagerie. Race fière, s'il en fut jamais, qui aujourd'hui, devant l'action énervante du commerce, comme autrefois devant le casse-tête ennemi, savent mourir sans se rendre. » Et il est évident, là, quand Taché écrit ça, il pense évidemment aux Amérindiens, mais il identifie certainement les Amérindiens aux Canadiens, Français ou aux Québécois. Et le casse-tête en question, c'est quoi? Quand on dit devant le casse-tête ennemi, est-ce que c'est un puzzle de 500 morceaux? Non, c'est ce qu'on appelle un tomahawk aujourd'hui, casse-tête là. L'arme de guerre des Amérindiens. Bien. Alors, je passe à mon point suivant, forestier voyageur. C'est mon avant-dernier point. Je veux simplement vous dire qu'on peut faire exactement la même analyse que j'ai faite des trois légendes avec ce texte-là. L'essentiel de la première partie qui est consacrée à la vie des forestiers met en scène l'arrière-pays rimouskois et met en scène plus particulièrement ce qui est aujourd'hui Saint-Narcisse de Rimouski et les portes de l'enfer. C'est là que se trouvaient les camps de bûcherons au 19e siècle. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est là qu'il y avait beaucoup de bois, mais c'est aussi là où il y avait la rivière Rimouski, et il y avait une force hydraulique prodigieuse et naturelle, les chutes que l'on trouve aux portes de l'enfer, qui permettaient d'amener les billes de bois jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Donc à peu près toute la première partie met en scène cet arrière-pays-là, et de façon très explicite. C'est pas juste une analyse, tirée par les cheveux, c'est effectivement le texte qui le dit très clairement. Il y a beaucoup d'anecdotes qui semblent être, de façon très évidente, des anecdotes biographiques de Taché, de l'époque de son séjour à Rimouski. Le narrateur de Forestier Voyageur, c'est un médecin. Un médecin qui a beaucoup fréquenté les Amérindiens et les bûcherons. Or, bon, je n'ai pas besoin de vous faire une démonstration très détaillée pour vous dire que ça correspond assez exactement à ce que l'on sait par ailleurs de Taché. Mon dernier point. L'île Saint-Barnabé, c'est le dernier texte publié dans les soirées canadiennes en 1865. Et là, c'est encore, la meilleure preuve qui permet d'associer les grandes œuvres littéraires de Taché à l'Institut littéraire de Rimouski, puisqu'on a dans les archives de Lucar le manuscrit autographe de ce texte-là que vous avez ici à la droite. Et ce texte-là a été... a été conservé grâce au docteur Joseph Gauvreau. Le fameux docteur de la maison Gauvreau, qui est aujourd'hui une chocolaterie, là. Bon, mais ce personnage-là, entre autres particularités, avait une sorte de culte un peu fanatique pour Joseph-Charles Taché. Et pendant toute sa vie, il a réuni des documents sur Taché. Il a réussi à mettre la main sur ce manuscrit autographe en écrivant au fils de Taché, mais il a réuni toute une série de notes et de documents extraordinairement intéressants. Il y a entre autres cette photographie que vous voyez là, qui, semble-t-il, est une photographie qui correspond à la maison du docteur Joseph-Charles Taché à Rimouski, où il écrivit l'ermite de l'île Saint-Barnabé. Donc là, on voit bien que ce texte-là, évidemment, la vie de l'ermite, c'est... ce qui est central dans l'île Saint-Barnabé, l'essentiel du texte est consacré à la vie de l'ermite. C'est la preuve, si vous voulez, que ce texte-là a été écrit à l'époque où Taché était à Rimouski.
Joseph Gauvreau est le fils d'Alexandre Gauvreau. Alors, je ne vais pas faire mon tanguay ici puis faire de la généalogie à l'infini, mais Alexandre Gauvreau, c'est un des membres fondateurs de l'Institut littéraire de Rimouski. Donc, il est probable que Joseph Gauvreau tenait de son père un témoignage de première main et qui lui permettait d'affirmer que Taché avait écrit ce texte-là pendant son séjour rimouskois. Alors, il y a évidemment des rapprochements qu'on peut faire entre le texte de 1846, sur où déjà il parle de l'ermite très brièvement, et le texte qui va paraître en 1865, intitulé L'île Saint-Barnabé. En fait, dès 1846, vous avez le canevas de base de ce qui deviendra l'île Saint-Barnabé. Donc, on sent bien déjà là, qu'en 1946, il y a presque une première version de l'île Saint-Barnabé qui est prête. Hein? Et donc, ce texte-là a été écrit pour l'essentiel à Rimouski, même si ça n'exclut pas du tout, bien au contraire, que Taché ait remanié ses textes avant publication et donc après avoir quitté Rimouski, bien entendu. Hein? Mais simplement, ce que je veux essayer de montrer ici, c'est que l'essentiel, disons, du premier jet de ces textes-là remonte à l'époque rimouskoise de Taché et est à inscrire dans le cadre des activités de l'Institut littéraire de Rimouski. Alors, il y a un passage très beau que je vais vous citer dans l'île Saint-Barnabé, où Taché, et là, il s'agit manifestement d'un ajout postérieur, où Taché s'adresse aux Rimouskois. Hein, je veux dire que Taché a épousé une Rimouskoise. Donc, en quelque sorte, même après avoir quitté Rimouski, il est toujours resté très lié à Rimouski, ne serait-ce que par sa belle famille. Et voici ce qu'il écrit donc dans l'île Saint-Barnabé. « Ô Saint-Barnabé, que de fois je t'ai visité dans mes courses de chasseurs, que de fois j'ai reposé la nuit dans tes cabanes, que de fois debout sur les pointes qui terminent ton domaine, j'ai admiré la beauté de tes environs, que de fois j'ai sur tes rochers livré ma tête rêveuse au souffle de tes brises et de tes tempêtes, puis cette terre du sud qu'on voit si bien de tes bords s'élever par gradins vers l'intérieur, puis ce village de Rimouski ne sont-ils pas chers à mon cœur? » Hein, si vous êtes déjà allé sur l'île Saint-Barnabé et vous avez regardé la vue qu'on a sur Rimouski, c'est exactement ça. Hein. Mais c'est encore mieux dit que c'est beau. « J'y sais des âmes qui m'aiment et qui me paient de retour. J'y ai des souvenirs que j'emporterai avec moi en quittant ce monde. Hein. » Donc, c'est un beau texte quand même que, pour ma part, je trouve assez touchant. Alors, ces quelques éléments, à mon sens, suffisent à montrer que l'activité de l'Institut littéraire de Rimouski n'était pas seulement cantonnée à l'histoire, à la philosophie ou à l'industrie, mais certainement tout autant à la littérature au sens restreint du terme, c'est-à-dire à la littérature vouée à la poésie de l'histoire, la légende, hein, on définit généralement la légende comme la poésie de l'histoire au 19e siècle, à la préservation du patrimoine immatériel, à la mémoire et aux traditions orales. Et d'ailleurs, trois des membres fondateurs de l'Institut vont faire partie des abonnés de la revue Soirée canadienne, Majorie Côté, Jean-Baptiste Lepage et Louis-François Garreau. Donc, en guise de conclusion, maintenant, ce que je voudrais vous proposer, c'est un dernier texte, tiré cette fois-ci de la chronique de Rimouski, publiée par Charles Guay en 1873-1874. Alors, on se dit, bon, Charles Guay, on n'a pas parlé de lui jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette galère, tout d'un coup? Pourquoi aurait-il quelque chose à voir avec l'Institut littéraire de Rimouski? Mais en fait, Charles Guay, comme il s'en explique dans sa préface, ce n'est qu'une sorte de compilateur. Il s'est contenté, pour écrire cette chronique de Rimouski, de mettre ensemble différents textes, des textes écrits par Taché, des textes écrits par Tanguay. Et c'est ce qui va donner lieu à cette fameuse chronique de Rimouski. Et dans la préface, donc, il explique tout ça très bien, et vous allez voir apparaître, en fait, les différentes figures que j'ai cherché à mettre en lumière dans le cadre des activités de l'Institut littéraire de Rimouski. Et je crois que le dernier témoignage, le point d'aboutissement, le point d'orgue des activités de l'Institut littéraire de Rimouski, ben, c'est cette chronique de Rimouski, même si elle est publiée sous un autre nom, sous le nom de Charles Guay. Alors, un écrivain de mérite, M. Joseph-Charles Taché, pendant son séjour dans la paroisse, nous a légué de belles pages sur l'histoire de l'ermite de l'île Saint-Barnabé, dont la lecture est aussi attrayante qu'agréable. Vous voyez, là encore, un autre personnage qui insiste sur le fait que Taché a écrit son histoire de l'ermite pendant son séjour à Rimouski. Je me suis fait un devoir de rapporter textuellement, dans le cours de cet ouvrage, cette intéressante histoire de l'ermite et quelques autres passages concernant le père Labrosse. Le père Labrosse et M. Le Courtois, dû aussi à la plume finement taillée de M. Joseph-Charles Taché. M. l'abbé Cyprien Tanguay avait eu l'intention de publier un travail sur la paroisse de Rimouski. Mais ayant été appelé à la composition de son dictionnaire généalogique, surnommé en France le Livre d'or du Canada, il ne put mettre la dernière main à son œuvre. Ayant été curé 9 ans de cette paroisse, il a recueilli des notes intéressantes qui nous ont été d'un grand secours. De fait, la chronique de Rimouski, pour l'essentiel, c'est des compilations de données de type généalogique. Donc, on sent bien là, je dirais, la main de Cyprien Tanguay derrière. Un autre écrivain de mérite et bien connu pour ses talents littéraires, M. François Magloire de Rome, se propose de donner au public une histoire de Rimouski, mais ses nombreuses activités l'en ont toujours empêché jusqu'à ce jour. Et là, évidemment, une belle vacherie, même si c'est enrobé de ce qui semble être un compliment. Il est à espérer que M. de Rome verra ses occupations diminuer et pourra se livrer bientôt à ses goûts littéraires. Voilà, donc je préférais laisser le dernier mot de cette conférence à Charles Guy lui-même, et je vous remercie de votre patience parce que j'ai été beaucoup trop long.
Alors, je remercie d'abord Flo pour cet exposé qui, à défaut d'être concis, je peux souligner, a quand même permis d'éclairer de nombreuses zones d'ombre sur l'Institut littéraire de Rimouski, mais aussi peut-être de rompre un peu avec la caricature, comme tu l'as souligné, qui entoure souvent les ultramontains. Dans certains cas, certains sont à la hauteur de la caricature, remarquez, mais dans le cas de Taché, il semble échapper par plusieurs aspects. On pourra en discuter pendant la période de questions, mais d'ailleurs, je me tourne, comme on a peu de temps, je me tourne immédiatement vers vous pour recueillir les questions que l'exposé a pu susciter. Pardon.
Au niveau du répertoire des brochures que vous avez retrouvées dans le fond dans les archives de l'Université Laval, est-ce que les titres qui sont à l'intérieur de ces répertoires-là correspondent aux livres que le Centre Joseph-Charles Taché a actuellement?
C'est une excellente question et ça fait partie de nos projets de recherche dans les mois à venir. En fait, j'ai fait quelques enquêtes rapides. Alors évidemment, il n'y a pas de journaux parce que dans les livres conservés de la collection du Grand-Séminaire, il n'y a pas un seul journal. Par contre, il y a beaucoup de journaux anciens conservés au cégep de Rimouski et c'est probablement des journaux qui datent de l'époque du petit séminaire de Rimouski. Alors là, notamment, par exemple, le journal de l'instruction publique que Taché avait, qui est répertorié dans son catalogue, et qui est aussi conservé au cégep de Rimouski. Il est bien évident que ce n'est pas une acquisition récente du cégep de Rimouski. Il n'y a personne, je pense, en tout cas, je ne pense pas trop m'avancer en disant ça, qui aujourd'hui au cégep s'intéresse au journal de l'instruction publique. Donc, c'est probablement quelque chose qui remonte au 19e siècle. Et ça pourrait faire partie du don, effectivement, de Taché. Alors, Marie-Ange Croft, qui est la coordonnatrice du Centre Taché, aura, entre autres, comme tâche d'aller vérifier s'il y a recoupement entre ces répertoires et ce qu'on retrouve soit ici au Grand Séminaire, soit dans la collection actuelle du Cégep, de Rimouski.
D'accord.
Donc, c'est effectivement une piste à envisager. J'ai fait quelques petits essais par moi-même, là, pour voir... Ce n'est pas extrêmement concluant, c'est-à-dire que tous les titres ne se retrouvent pas au cégep. Mais comme on sait que par ailleurs, beaucoup des fonds anciens du petit séminaire ont été dispersés lorsque le petit séminaire est devenu cégep, on ne peut pas conclure trop rapidement. Je pense qu'il faut faire vraiment une sorte de vérification systématique et exhaustive avant de tirer les conclusions.
Peut-être juste pour enchaîner, moi je suis un peu curieux justement de... la composition de ces répertoires, ben, des ouvrages qui sont répertoriés, particulièrement en histoire, est-ce qu'on peut avoir un petit échantillon?
Oui, ben, je peux donner un exemple, alors c'est pas extrêmement excitant, là, il n'y a pas Garneau, il n'y a pas les grands historiens québécois, mais il y a par exemple deux éditions publiées la même année, je crois que c'est 1842, d'un ensemble de textes sur l'histoire Canada, mais à l'époque du régime français, donc ce type de compilations qui sont quand même très courantes au 19e siècle, ça se trouve dans les répertoires de brochures. On trouve aussi une édition de différentes relations sur le siège de Québec de 1759 parmi les brochures qui ont appartenu à Taché.
Donc rien de qui pourrait ressembler à Bibeau, Garneau,
Bibeau,
Charlevoix,
oui,
peut-être, étant donné son...
Mais là, je ne veux pas dire n'importe quoi parce que je n'ai pas le répertoire au complet en tête, mais il y a Bibeau, mais ce n'est pas l'historien Bibeau, là, c'est l'auteur des Épîtres, etc. Donc, les poèmes de Bibeau font partie des brochures de Taché, mais pas l'histoire de Bibeau, sauf erreur de ma part. Il y a un certain nombre de documents anciens relatifs aux relations des Jésuites. Évidemment, Taché étant un ultramontain, il est très, très attaché à la dimension religieuse de l'histoire nationale. Il y a beaucoup de textes qui vont dans ce sens-là.
Où est la femme?
Oui, ça c'est une très bonne question. J'ai oublié de dire, en tenant ça presque pour une évidence, effectivement, il n'y a pas une seule femme dans cet institut littéraire de Rimouski. C'est bien dommage pour nous, mais je pense que ce n'est pas étonnant dans le contexte du 19e siècle parce que c'est une société extrêmement patriarcale et misogyne. Et donc les femmes, elles sont à la maison. Ça, c'est très évident. Mais on sait que par ailleurs, il y a quand même des femmes d'écrivains dans le Québec du 19e siècle, mais en tout cas, à Rimouski, ça ne semble pas être le cas. Donc, il n'y a rien du tout. Pas une seule femme. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est que, par exemple, lorsque Garon va. Louis-François Garon, est-ce que c'est ça, Louis-François? C'est son nom de famille, mais en fait, celui qui est secrétaire, il va mourir assez jeune. Et c'est sa femme qui va continuer en son nom personnel l'abonnement aux soirées canadiennes. Donc là, on a un indice indirect, manifestement d'une curiosité littéraire de la part d'une Rimouskoise de l'époque, mais c'est pas grand-chose.
Oui, donc moi je me demandais, vous avez parlé là, au début là, comme de l'acte fondateur, comme quoi il y avait 28, ok. Et que plus tard, dans le Journal de Québec, on en trouvait 33, donc ça m'a amené comme question. Je me demandais s'il était possible que durant la durée de vie de l'Institut littéraire, il y ait eu une augmentation des membres, puis si ça aurait pu être assez conséquent, ou est-ce qu'on est capable d'avoir une estimation?
Bien, dans l'état actuel des documents, c'est absolument impossible d'estimer le nombre actif de membres. Vraiment, comme vous l'avez vu, tout ce que je sais à propos de l'Institut, c'est essentiellement des hypothèses brillantes. Hein? Mais derrière ça, il n'y a pas beaucoup de preuves formelles, de preuves documentaires. Je pense que ce qui explique, par contre, la différence entre la version manuscrite et la version imprimée, c'est évidemment cette espèce de mise en scène. Hein? Pourquoi publier cette lettre de remerciement dans le Journal de Québec? Mais c'est pour montrer que Rimouski est une ville importante, est une ville dynamique, où se passent de grandes choses, où il y a de beaux esprits, où les gens s'intéressent à la culture. Et on a tout intérêt à grossir un peu le nombre des membres. Hein? Et donc, j'imagine que les noms ajoutés, ça, j'ai pas encore eu le temps de travailler là-dessus, mais c'est essentiellement le nombre d'un certain nombre de notables de l'époque qui n'étaient peut-être pas là au moment où on a signé la lettre, mais qui ne pouvaient pas décemment se permettre de ne pas figurer dans la version imprimée dans le journal. Donc, il y a peut-être de ça dans cette espèce de mise en scène, mais je crois que ça demeure quand même une mise en scène. Dans les activités réelles de l'Institut, pour ma part, je doute qu'il y ait eu toujours 28 ou 33 membres. Je crois sincèrement que ça devait beaucoup ressembler à notre assemblée de ce soir, c'est-à-dire 10 ou 15 gens triés sur le volet, et encore dans le meilleur des cas. Il faut voir que Rimouski en 1855, là, c'est pas Rimouski en 2008, hein, en 1855, il y a à peu près 4000 personnes à Rimouski. Donc, c'est très peu de gens. Je doute aussi qu'il y ait eu des réunions toutes les semaines, comme le texte de du journal de l'instruction publique le laisse entendre. Je pense que probablement que les réunions avaient lieu à intervalles quand même beaucoup plus espacés, peut-être à tous les mois. En tout cas, à Québec et à Montréal, les conférences de l'Institut, c'est même pas à tous les mois. Donc, on voit mal comment Rimouski aurait pu être plus dynamique que Québec ou Montréal sur ce plan-là.
Alors, j'irais peut-être, en fait, c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire, peut-être revenir au début sur la raison d'être, en fait, de l'Institut, sur la mode également de cette époque-là. En fait, probablement que l'hypothèse de l'impasse politique, elle serait convaincante si ça se passait pas partout ailleurs. Mm-hmm. Et à cet égard-là, c'est intéressant, et parce que ça nous fait sortir un petit peu des cadres habituels, un peu dictés par le code de l'Institut canadien, justement, très revendicateur, mais qui est aussi un lieu de sociabilité, de rencontre, un lieu un peu à l'écart. C'est vrai que tout en étant un lieu polémique, mais c'est surtout vers la fin, où là, quand le torchon brûlera avec le clergé, que ça devient un peu compliqué. mais on voit que ça participe, bon, de nommer plusieurs sociétés littéraires à l'époque, mais je dirais que c'est plus large que ça, et ça rejoint un peu le personnage qui était, et l'intellectuel qui était Taché, c'est-à-dire que ça participe aussi, c'est l'époque où on fonde les premières sociétés d'histoire amateur, je pense que la société d'histoire amateur de Montréal est fondée en 1858 ou quelque chose comme ça, la première, très liée au milieu anglophone toujours, les sociétés numismatiques, d'héraldique, les musées d'histoire naturelle, les cabinets de curiosité, on te fait mention d'une collection sur les Amérindiens. Ce caractère très touche-à-tout de curiosité qui s'impose vraiment beaucoup au milieu du 19e siècle, on dirait que, évidemment, Taché y participe à plein. Mm-hmm. Et ça rompt un peu avec cette image toujours, notamment même la question des répertoires, le fait qu'on aborde toutes sortes de sujets sans nécessairement toujours les subordonner les uns, se mettre les uns aux autres, parce que c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend souvent des ultramontains, d'ailleurs, qui soumettent tout à la religion. Il semble qu'il y a eu quand même un intérêt pour l'histoire nationale. Il y a déjà le nationalisme, une raison de distinguer l'ultramontanisme français de la forme que ça prendra ici. Mais il y a cette volonté-là, donc, d'un authentique penseur, touche-à-tout de la pensée, qui est intéressé partout. Et ça tranche énormément avec l'image qu'on a un peu caricaturale, peut-être dictée par certains... passage assez grossier là, de Bourget notamment et de La Flèche, mais je pense qu'il participe à plein vraiment de ce mouvement-là de curiosité qui touche aussi la science jusqu'à un certain égard au 19e siècle. Donc c'est peut-être plus un commentaire qu'une question, mais on pourrait même élargir ça pour simplement couvrir la dimension littéraire pour aller un peu plus loin.
Oui, tout à fait. Et puis surtout, ce qui est surprenant, c'est que Taché a toujours été membre actif de l'Institut canadien de Montréal, qui montre bien qu'en réalité, la représentation qu'on donne de l'Institut canadien de Montréal depuis 1960 est probablement fausse, parce que Taché, grande gueule comme idée, se serait forcément fâché très rapidement avec l'Institut canadien de Montréal si l'Institut avait été aussi clairement uniquement libéral, uniquement anticlérical, uniquement laïque. En fait, je pense que l'œuvre de l'Institut canadien ne se résume pas du tout à ça, pour les contemporains, qu'en réalité, ce qui est plus essentiel que tout, c'est cette espèce de mission qui est nationale et qui dépasse, c'est vrai de tout le 19e siècle, les clivages idéologiques sont en quelque sorte solubles dans la cause nationale. C'est-à-dire qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit ultramontain ou qu'on soit partisan de la laïcité, en fait, ce qui est important, c'est la cause nationale. Et sur ce plan-là, tout le monde s'entend, tout le monde se rejoint, tout le monde travaille dans le même sens. Et je pense que les instituts, c'est d'abord ça. Ensuite, effectivement, il y a des nuances idéologiques, mais elles ne sont peut-être pas aussi importantes qu'une certaine historiographie là, héritée de la Révolution tranquille a voulu nous le montrer, nous le faire croire. Je pense qu'il y a beaucoup d'historiens des années 60 qui sont emparés des grands débats du 19e siècle pour projeter des questions qui étaient celles des années 1960 et pas du tout des années 1860. En tout cas, c'est mon sentiment. Mais par contre, il y a quand même un élément qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce mouvement associatif a été très fort au Québec et beaucoup moins fort en Ontario. Alors que pourtant, le gouvernement avait créé ce programme-là pour le Canada uni, donc aussi bien pour le Haut que le Bas-Canada. Et on sent qu'au Québec, on s'est emparé de ça là, pour en faire autre chose, alors qu'en Ontario, probablement parce que déjà chez les anglophones, il existait des bibliothèques publiques, parce que déjà il existait des sociétés, etc. Peut-être qu'on n'a pas vu le même intérêt qu'au Québec. Mais en tout cas, c'est sûr que ça semble être encore quelque chose de propre au Québec, cet engouement-là pour les instituts et les sociétés littéraires du 19e siècle. Mais c'est sûr que ces sociétés-là ne s'intéressent pas du tout uniquement aux belles lettres, aux romans, à la poésie, au théâtre, aux contes et aux légendes. Je crois que c'est vraiment plus large que ça. C'est la littérature au sens encyclopédique du terme.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je remercierai une dernière fois, avant de vous saluer, Claude, pour sa présentation de ce soir. Pour ceux et celles qui n'en auraient pas eu assez et qui voudraient réécouter en boucle la conférence de ce soir, souligne qu'elle sera bientôt, si l'enregistreuse numérique a fait son travail, elle sera bientôt disponible en balado-diffusion, qui est la traduction française du mandarin podcast. Donc sur le site même du Centre Joseph-Charles Taché,
Je rappelle également la quatrième et dernière conférence de la série qui aura lieu le mercredi 10 novembre prochain à 17h cette fois. Alors Jean-François Cottier, professeur au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal, va à ce moment nous entretenir de Tertullien, ce père de l'Église, une certaine propension à la polémique, a privé de la canonisation, c'est malheureux. Et je me permets donc de citer au long le titre de la conférence. Alors, Tertullien, du sommeil, des songes et de la mort, fondation d'une anthropologie chrétienne. Alors voilà cette annonce faite. Je vous remercie d'avoir assisté à la présentation de ce soir et je vous souhaite une agréable soirée.
Merci beaucoup.